Fortin et Pascal Zévé. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Déjà vendredi, midi, une minute, c'est l'émission On en jase, ton émission du midi d'actualité. On t'informe sur l'essentiel de l'actualité, on analyse la politique et on parle de sujets très importants. Et dans quelques minutes, on va parler d'un sujet tellement important, la violence faite aux femmes. Il y a 5 féminicides déjà depuis le début de l'année. Il y a énormément de commentaires sur les médias sociaux qu'on voit ressurgir, notamment avec Catherine Fournier cette semaine, lorsqu'elle a décidé de poser en première page du clin d'œil. Très belle photo, très bel article. On l'a eu d'ailleurs en entrevue, ça se retrouve sur le blvd.fm. On a également ces 10 présentatrices météo qui ont sorti à JE hier pour dire « Ça n'a pas d'allure, je reçois des messages par la poste de gens qui me traitent de pute et de plein de mots comme ça ». Alors, on va parler de ceci avec Farnel Morisset et Lambert Drainville dans quelques minutes. Puis là, les gars à l'écoute, là, on va se parler, les gars. Là. On va changer nos comportements. On va prendre soin des femmes. Parce que c'est très important. 418-971-1021 pour nous rejoindre chez par texto. N'hésitez pas à réagir à la discussion qu'on aura avec Farnel Morisset et Lambert Drainville. BLVD.fm, je l'ai dit, vous écoutez nos meilleurs moments. Entre avec Catherine Fournier qu'on a fait mercredi. Ça inclut également notre web radio. BLVD 102.1, c'est l'application sur App Store, Google Play Store. Partout où tu vas, tu es en fin de semaine, tu te dis « Hey, je suis en train de partir vers, tiens, je vais nommer une ville au hasard, Rivière-du-Loup en tournoi de hockey avec les boys. » Ben voilà, écoute-nous via l'application twitch.tv/BLVD/FM. Lambert Drainville est en studio aujourd'hui, viens-t'en sur Twitch, viens le voir, c'est rare qu'il est là. Et abonnez-vous à notre page YouTube, justement, pour voir les meilleurs moments de Boulevard. Avant de céder la parole à nos deux comparses, nos deux collaborateurs, qui étaient tout heureux de se voir, allez voir d'ailleurs notre story sur Facebook et Instagram de leur arrivée. On fait le tour des 3 manchettes principales avec nul autre que Pascal CV. Pascal, let's go. Je sais que tu vas bien. Lance-nous ça.
D'abord, bon vendredi. Puis effectivement, c'est une grosse journée d'actualité. Honnêtement, le vendredi, habituellement, bon, y a pas grand-chose, mais dans le fait divers, ça roule. Et au palais de justice, ça roule. Je reviens sur cette histoire-là qui avait marqué pas mal toutes les têtes de Québec quand on avait commencé à en parler. Le groupe militant extrémiste, le Hide and Stalk, c'est ces gens de terroristes-là qui avaient un complot, qui avaient décidé de s'emparer, du moins de vouloir s'emparer d'une partie de territoire de la ville de Québec, puis de devenir un genre militaire 2.0 moderne. Bon, tout ça était très particulier. Il y a un délateur maintenant parmi ces gens-là. On a décidé que ben, peut-être que ce serait mieux pour l'un d'entre eux de commencer à collaborer avec les policiers. Ça fait en sorte qu'on va avoir beaucoup d'informations et je pense que ça, c'est un point culminant dans l'affaire de complot terroriste à Québec. Délateur officiel, donc l'homme, son identité est encore protégée pour l'instant, mais il informait la police fédérale pendant l'enquête et il a aussi accepté de témoigner pendant le procès en échange d'une immunité. On voyait beaucoup ça dans le crime organisé habituellement là, avec les Hells Angels et autres. Je pense que ça, tout le monde l'a dans son esprit. Mais là, c'est le cas dans le dit dossier actuel. Donc, les propos de l'individu qui vont être évalués par un jury. Et bon, ça comporte tout ce que Marc-Aurel Chabot, 24 ans, Simon Angé-Audet, 24 ans, Raphaël Lagacé, 25 ans, et Matthew Forbes, 33 ans, ont fait et pourquoi ils ont été arrêtés pendant l'été 2025. On va revenir face à ces accusations graves d'avoir facilité un acte terroriste et une kyrielle d'infractions aussi reliées aux armes. Dans le dossier, je peux aussi préciser qu'on y va avec une différente pour bien des médias. Et il y a un autre média, soit Radio-Canada, qui a décidé de parler plus de ce qui s'était dit du côté du dossier, comme quoi les militaires accusés de terrorisme, ben, parmi ces gens-là, du moins le chef, ont craignait une invasion de zombies. Ça, c'est une autre information qui est sortie. Et on dirait que tout est un peu interrelié, mais c'est quand même un autre dossier. Cette fois-ci, je vous parle des Hells Angels. Donc, il y a un juge qui a conclu que les vestes des six Angels, pardon, ont été confisqués. Dans quel dossier? Ben, c'est parce que les Hells Angels sont une organisation criminelle, je vous apprends rien, mais les vestes sont maintenant jugées teintées de criminalité parce qu'elles servent à intimider et à faciliter des crimes, et c'est ce qu'a reconnu un juge de la Cour du Québec. Et on a ordonné aujourd'hui confiscation des vestes des 6 membres des Hells Angels et d'un de leur club école, là, même s'ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été encore accusés à l'issue d'une enquête policière. Les vestes, par exemple, ont été prises sous grippe par les policiers. Et je termine avec le gouvernement péquiste, encore dans l'actualité aujourd'hui. Là, on voudrait mettre la hache dans les subventions. Pourquoi? Ben, pour financer les baisses d'impôts aux entreprises. Ça peut attirer, je pense, l'attention de bien des entrepreneurs. Est-ce que c'est un peu la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon? On verra. Mais s'il prend le pouvoir l'an prochain, il va mettre la hache dans des subventions aux entreprises. C'est très populaire sous le gouvernement caquiste, mais ça serait en échange d'importantes baisses d'impôts.
Congrès du Parti conservateur du Canada, Calgary, cette fin de semaine, et congrès du Parti conservateur du Québec également. On va recevoir Éric Duhaime aux alentours de 13h, puis on va parler de, justement, cet énoncé en matière économique de Paul Saint-Pierre Plamondon. Es-tu en train de copier le programme conservateur? C'est ce qu'on va regarder avec Éric Duhaime aux alentours de 13h. Je dis félicitations à Nadine, une auditrice fidèle qui aime quand on parle d'immigration. Bien, elle a reçu son invitation ce matin dans le PSTQ, le nouveau programme pour les personnes immigrantes permanentes. Nadine est de nationalité française. Elle est très heureuse. Nadine, good job. On est très content d'être avec toi. On passe à ce fameux segment Farnell, Morissette, Lambert, Drainville, mais qui va être encore plus fameux aujourd'hui parce que les deux sont en studio. Comment ça va, les amis?
Moi, je suis tellement, tellement content d'avoir Lambert à côté de
moi
puis
je regarde son sourire, lui aussi, là.
Ouais, c'est réciproque. Je suis très content. Ça fait un bail, je me rappelle pas. Ben, je pense que c'était aux élections fédérales, en fait, la dernière fois qu'on était en studio, en ondes en même temps.
Élections fédérales, une superbe soirée, d'ailleurs, qu'on avait fait. C'était très, très, très plaisant. Les gars, on va parler de violences faites aux femmes, mais avant, justement, je crois que c'est important d'écouter une publicité du gouvernement du Québec que je trouve très intéressante sur qu'est-ce que la violence faite aux femmes.
Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits.
Les gars, 5 féminicides déjà depuis le début de l'année. On est au 30 janvier. Je le disais en introduction, on voit des comportements violents sur les médias sociaux. Pas possible. Qu'est-ce qui explique cette montée-là? Farnell, toi qui es quand même un philosophe, un plus grand philosophe que nous, comment tu vois ça? Comment tu sens ça?
Je pense que la première chose qui est importante à se dire, c'est savoir c'est quoi un féminicide, parce qu'il y a sûrement des gens qui se disent « Ah, une femme qui meurt, c'est un féminicide, puis un homme qui meurt, on s'en fout. » C'est pas vrai. Un féminicide, c'est spécifiquement une femme qui est tuée pour des raisons qui sont liées au fait que c'est une femme, donc pour des raisons genrées. Alors, c'est pas s'il y a une tuerie à quelque part, puis ça donne qu'une femme qui meurt parmi les victimes, c'est pas un féminicide. Un féminicide, c'est quand, genre, un conjoint ou un ex-conjoint tue sa conjointe, son ex-conjointe, ou une situation où, vraisemblablement, le motif est lié au fait que la victime, qui est une femme qui n'aurait pas eu le comportement voulu par un homme. Spécifiquement, c'est ça, un féminicide. Il y en a eu 5 depuis le début de l'année. C'est déjà un record pour... Il n'y a pas eu de mois où il y a eu 5 féminicides l'année passée. Qu'est-ce qui fait ça? C'est vraiment difficile à se dire. Fondamentalement, c'est pas qu'il y a une absence de volonté politique de régler le problème, clairement. Il y en a. Je pense qu'à quelque part, c'est un problème qui émanent surtout de notions, de questions culturelles. Et puis là-dessus, la pub le dit très bien, là, la violence conjugale, ça commence pas avec une claque sur la gueule. Ça commence avec « montre-moi ton sel », ça commence avec « je veux pas que tu vois ton ami », ça commence avec « habille-toi pas de même ». Et il y a probablement beaucoup de gens qui réalisent pas que ça, c'est un gros drapeau rouge. Alors, mesdames, si vous êtes avec un homme qui vous dit ça, c'est pas normal. Allez chercher de l'aide. Mm-hmm. Et messieurs, si vous avez les pulsions de faire ce genre de choses-là, c'est pas normal non plus. Allez chercher de l'aide aussi. Ça commence avec une culture.
Il y a des gens quand même qui commentent parce qu'ils ont entendu la publicité puis qui disent « Ouais, mais là, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à ma blonde « Hey, change de ton quand tu me parles. Hey, » Puis parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu moins... qui sont plus dans la vie quotidienne. Tu sais, moi, Farnell, je commence à sortir avec toi. Il y a une journée que ça va pas ou quoi que ce soit. Puis là, je me mets à mal te parler. Puis tu me dis, Pascal, peux-tu changer d'air? Peux-tu changer de ton? C'est pas la même chose que si c'est récurrent, c'est quotidien, puis ça s'ajoute avec d'autres gestes. C'est juste parce que je pense qu'il y en a des fois qui vont se braquer un peu en disant, hey, c'est-tu exagéré?
Je pense que c'est ça qu'il faut arrêter de faire aussi, se braquer. T'sais, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, j'étais au 98.5 la semaine passée, puis c'était la même chose. Les hommes dans la messagerie disaient, ouais, mais t'sais, des hommes qui se font tuer par leurs femmes, ça existe aussi, puis on n'en parle jamais. Effectivement, ça existe aussi, mais savez-vous quoi? C'est dans une proportion très, 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 très faible. Tu sais, mon cher ami ici parlait de la culture, tu sais, Farnell parlait de la culture. la culture, je pense que ça commence par les boys, tu sais. Le problème de violence, puis quand on dit violence, comme Fernel disait, c'est violence au sens large, c'est la violence coercitive, c'est pas nécessairement la violence physique. Ça commence par changer la culture, puis par, entre gars, rendre ça complètement inacceptable, tu sais, rendre ça complètement lâche, tu sais, que ce soit clair entre tous les hommes, peu importe la nature du comportement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie. Je pense qu'il faut que ce soit dit, puis il faut qu'on arrête les gars de se braquer puis de dire « Non, mais là, moi, j'y traite comme du monde, les femmes. » Bien, tant mieux! Tant mieux! Mais moi, j'ai un enjeu avec le fait que là, présentement, on est à 5 féminicides en un mois. C'est la moitié de total de tout l'an passé. Tu regardes depuis les années 2000, là, depuis 2005, 21 700 femmes victimes d'événements de violence conjugale. C'est 50 % de plus par rapport à 2005, comme je disais. Et ça, c'est sans compter, évidemment, toutes celles qui ne portent pas plainte. Fait que la vraie statistique est beaucoup plus élevée que ça. Si tu es un gars et tu es à l'écoute présentement de la discussion qu'on a et tu sens pas que tu as un rôle à jouer dans ce débat-là, ben désolé de te l'annoncer, mais tu fais partie du problème. Si d'entendre qu'il y a eu 5 féminicides en janvier, ça te sonne pas des cloches, puis ça te dit pas « Hey, tabarouette, je vais redoubler d'ardeur pour voir dans mon entourage, chez mes amis, dans la manière dont j'élève mon fils, est-ce que je peux être meilleur? Est-ce que je peux passer les messages? » Je pense que ça commence par là. Le problème de violence, c'est un enjeu qui est fait par les hommes envers les femmes en presque totalité des cas. Alors la solution, pour moi, elle passe d'abord et avant tout par les gars, et elle passe d'abord et avant tout par ces gars-là qui disent que « Ah, moi, j'ai rien à me reprocher. » Ben parfait, t'as rien à te reprocher. Numéro un, sois partie prenante de la solution maintenant. Faisons-le tous ensemble.
T'as tellement raison, je suis tellement avec toi. Et ça me permet de rappeler pour les femmes qui vivent de la violence, il y a sosviolenceconjugale.ca et le numéro 1-800-363-9010. 1-800-363-9010. Mesdames, vous n'êtes pas seules. Puis communiquer avec ces ressources-là, on va vous aider.
Les boys non plus, comme Fernel disait, les gars, c'est normal que ça bouille en dedans. Ça nous arrive tous des moments où que ça bouille en dedans, que ce soit en faisant du sport, que ce soit une mauvaise journée, une mauvaise nouvelle, une mauvaise journée au bureau, ça nous arrive tous. Tout le monde vit ces pulsions-là. Maintenant, si tu sens que les tiennes sont plus grosses, plus difficiles à contrôler que par d'autres moments, ben c'est un drapeau jaune, là. Gros drapeau jaune. Puis c'est ça aussi, quand je dis tout le monde doit être partie prenante de la solution, c'est de normaliser le fait d'aller chercher de l'aide. C'est les gens qui sont les plus forts, les plus conscients d'eux-mêmes qui sont lucides et qui sont capables d'aller chercher de l'aide. C'est un signe de force beaucoup plus qu'autre chose. Puis ça, je pense qu'il faut le dire aussi.
Je suis très d'accord avec toi. On est dans le segment avec Fernel Morisset, Lambert de Rainville. C'est un segment qu'on a chaque vendredi de midi à midi 25 environ. Et là, on a la chance d'avoir les deux gars en studio avec nous. 418-971-1021 pour réagir. Je veux lire des gars, là. Écrivez-nous, là, comment vous voyez cette situation-là. Parce que moi, je me place dans la même équipe que toi, Lambert. Je pense qu'en tant que gars non violent, faut faire la promotion auprès des gars des bons comportements. Moi, j'ai deux ados de 16 et 18 ans. Ça m'est déjà arrivé de les entendre parler d'une fille et puis j'ai fait « Hey, attends une minute, ça marche pas de la façon qu'ils sont en train de parler de cette fille-là. » Et j'ai immédiatement intervenu parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut casser très rapidement. T'en penses quoi, toi, Fernel?
Ben, on s'entend que les 5 féminicides qu'on a eus jusqu'à présent cette année... Les hommes meurtriers, il y avait des chums. Puis peut-être bien, puis là, je veux pas spéculer, là, je les connais pas, mais peut-être bien qu'il y a un de ces chums à quelque part qui s'est dit « Ouais, il parle d'un... Il y a un comportement un peu drôle avec sa blonde, avec sa femme, où il en parle de façon bizarre, mais bon, ah, tu sais, non, ça me tente, je veux pas déranger, c'est correct, c'est pas de mes affaires. Moi, je suis correct avec ma blonde, ce que lui, il fait, c'est pas... De... » Non.
Je veux pas perdre mon amitié.
Ben, c'est ça, on a
avec
tous...
Avec ce gars-là, il y en a qui se posent la question.
Exact, on a tous des responsabilités, puis c'est... On aime souvent se dire, ben non seulement moi, je suis un bon gars, mais aussi, tu sais, je suis quelqu'un de brave et de courageux. Hey, ça demande un énorme courage. Arrêter ton chum et dire, hey, t'es-tu correct?
Oui.
Ça va-tu ta relation? La façon que je t'ai vu parler à ta blonde l'autre jour, pas sûr que t'es vraiment sur la bonne track, là. Hey, ça demande un énorme courage faire ça, mais ça fait partie de la solution aussi.
C'est de l'amour aussi, hein?
C'est de l'amour énorme.
Tes amis, oui, vraiment. Oui, on t'sais... a déjà jasé en onde, là.
Ben, je veux dire, puis c'est sûr que le féminicide est tragique, mais il y a beaucoup d'hommes après ça qui se font violence à eux-mêmes par la suite, puis en même temps, je veux dire, il n'y a personne qui souhaite ça à son ami de se retrouver dans une situation du genre. Il n'y a personne qui souhaite à son ami de tuer quelqu'un, de tuer sa blonde, sa femme. Et oui, ça demande un énorme courage. Puis souvent, on va se dire, ah, je ne veux pas m'en faire pour rien, puis je ne veux pas faire une tempête dans un verre d'eau. Mais si vous pouvez sauver une vie, là, même si vous avez 5 % de chance, ça vaut peut-être une petite tempête dans un petit verre d'eau une fois de temps en temps.
Tu peux t'en faire trop tôt. Tu peux t'en faire trop tôt, malheureusement, t'en faire trop tard, c'est impossible. Une fois qu'il est trop tard, il est trop tard. Fait que si t'as le moindre drapeau jaune, je pense que faut intervenir. Puis, j'en ai eu, moi, des moments là, où que ça allait moins bien dans ma vie. Puis j'ai un moment en tête spécifiquement où que je suis rentré dans une soirée qui se devait être un pre-drink, comme on les appelle avant de sortir au bar. C'était à Québec, d'ailleurs, avec mes amis de toujours, du secondaire. Puis je rentre dans l'appartement en me disant « Party! » Puis je rentre, il n'y a pas un son, pas une lumière, ils sont tous assis sur le divan. Puis ils sont comme « Hey, il faut qu'on se parle. » Puis c'était destiné à moi. Puis il était 6-7, là, puis il y avait comme un message à me passer. Puis c'était pas par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, mais c'était par rapport à autre chose. Puis ça a été une discussion franche qui a fini en des boys qui braillent, qui serrent dans leurs bras. Puis ça n'a pas été facile, mais...
Mm-hmm. T'as des bons amis.
Ils ont eu du courage. C'est... T'as une intervention courage. Envers toi en disant « Hey, il y a quelque chose avec Lambert qu'on reconnaît pas. Puis... » Mais ça, je trouve ça intéressant parce que je me dis... Ne pas s'élever aussi face à tout ça. Puis là, on se dirige pas à l'extrême, soit à tuer quelqu'un, mais avant ça, bien avant ça, si on se tasse sur la ligne, la chronologie, je suis certaine qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes même pas reconnu dans un état d'âme, dans des émotions, dans un comportement, dans une réaction. Puis le fait de pouvoir se regarder puis se dire, hey, attends un peu, là. Moi, je pense que ma soupape est en train d'exploser, là, puis il y a peut-être quelque chose que je dois revoir à l'intérieur de moi. Pourquoi j'en parle? Parce que je pense qu'il y a bien des hommes qui ont posé des comportements de violence conjugale ou qui jamais on aurait pu présumer qu'ils pouvaient aller là ou quoi que ce soit. Fait que je me demande, tu sais, au 88-971-1021, ou vous, les gars, y a-t-il des moments où vous êtes regardés? Tu sais, toi, tu viens de nous confier quelque chose, Lambert, puis vous êtes dit, ah, je me reconnais pas, puis faudrait que je fasse attention, parce que si je me laisse aller puis envahir par mes émotions, je pourrais avoir des comportements déplorables.
Bien, je pense que tout le monde a vécu des moments comme ça. Je pense que ça demande énormément de connaissance de soi-même, d'introspection, être capable de l'identifier. Puis même l'homme le plus sage au monde, s'il est dans un état émotif, n'a pas les capacités cognitives nécessaires. N'importe quel humain dans un état hautement émotif est plus rationnel. Alors, tu n'es plus capable de faire ce travail-là, de te regarder toi-même de la même façon. Et puis, c'est là, je pense, que je reviens à dire, bien, il faut que tout le monde soit bien entouré d'amis qui sont capables de dire « Hey, t'es pas correct, ça va pas bien, viens, va donc chercher de l'aide » ou quelque chose du genre. Ce qui se passe, c'est pas normal parce qu'on n'est pas toujours capable de le voir nous-mêmes. Je pense que là-dessus, les hommes ont une grosse lacune sociale qui est, je parlais à un de mes amis l'autre jour, dis, les femmes s'appellent juste pour jaser. Hey, les hommes font pas ça. Moi, j'ai jamais appelé un de mes amis. Je vais dire, hey, ça me tente juste de jaser, comment ça va? C'est pas quelque chose qu'on fait. On va planifier pour se voir, tout ça, mais ça veut dire que les contacts sociaux sont moins constants, moins courants, moins longs, souvent moins profonds aussi, ce qui fait que même à vouloir avoir ce genre de discussion-là, c'est moins facile. Puis ça, c'est une culture qu'on peut changer nous-mêmes, là. C'est facile appeler ton chum, dire, hey, juste comment ça va? On va prendre 5 minutes pour jaser. T'es pas obligé de plus que ça. Juste faire un petit check-in, comme ça, la prochaine fois que tu le vois, t'as une meilleure idée de c'est quoi le baseline.
C'est quoi notre rôle à nous en tant que femmes, les gars, pour vous aider?
Moi, une des choses que j'ai énormément appréciées, c'est que j'ai eu des copines qui m'ont dit « Hey, il faut plus d'amis. Il faut plus d'amis. Il faut que tu aies des chums de gars qui sont probablement eux aussi en besoin d'amis. Puis assure-toi que c'est du bon monde, mais il faut juste que tu aies un filet social, des réseaux sociaux réels de gens qui sont justement des points d'attache de plus. Comme ça, si jamais il y a une rupture dans ta vie, bien, souvent... Un homme qui perd son épouse, surtout dans cette situation-là, il n'est pas juste en train de perdre sa blonde ou son épouse, il a l'impression de perdre sa vie sociale au complet, sa vie interpersonnelle au complet, parce que sa socialité est attachée à une personne. Alors, le plus on a d'amis ailleurs, le plus on a des points d'attache pour pouvoir justement partager le poids qu'on est en train de vivre.
Exact. Puis ce serait de... Tu sais, je pense que là, tu sais, tu demandes qu'est-ce que les femmes peuvent faire. C'est un peu délicat. Déjà qu'on soit 3 gars à parler de je suis content que tu sois là.
C'est pour ça que je me suis
permis. Une chance, t'es ici, en effet.
Je pense que, tu sais, d'en parler, je pense, avec tes chums de gars, puis de relayer ce message-là, comme quoi ça prend du courage, puis comme quoi c'est, tu sais, faut s'assurer que pour tout le monde, peu importe d'où tu viens, peu importe ton milieu, que c'est une norme, que c'est complètement inacceptable, quelconque forme de violence, que ce soit physique, psychologique, financière. C'est quand même inacceptable. Maintenant, moi, mon message, encore une fois, puis notre message, à Fernand et moi, je pense qu'il est beaucoup plus aux hommes. T'sais, les femmes...
Vous faites déjà votre part.
Vous faites déjà votre part. Le nombre de portes, toutes les portes étendards du féminisme au Québec, ce sont toutes des femmes. Je peux pas te nommer un gars au Québec que je dis, lui, Il porte la cause des femmes.
Attends, je suis vraiment pas d'accord avec ça.
Mais moi, je peux pas t'en nommer un. Peut-être que toi, tu peux m'en nommer un, mais moi...
C'est même pas des noms, c'est des gens qui m'entourent. Puis je le dis souvent parce que, bon, quand on vient à parler des journées des droits des femmes et tout
mais
ça...
Mais ça, je comprends, mais mon point est pas là du tout. C'est quoi? Mon point initial, c'était beaucoup de dire ça, que dans tous les cercles, il faut en parler. Mon point maintenant, c'est de dire il y a des gens au Québec qui font partie de cette gang-là, qui ont un grand respect pour toutes les femmes qui les entourent, pour tous les êtres humains qui les entourent, qui ont des plateformes. Mm-hmm. Qui ont des plateformes, puis ces gens-là, encore une fois, comme ce que j'ai dit au début, si tu acceptes ce qui se passe et tu te dis c'est beau, j'ai pas ma part de responsabilité là-dedans et c'est pas assez grave pour toi, cet enjeu-là, pour à tout le moins que tu en parles une fois de temps en temps, selon moi, tu fais partie du problème. Mm. Il faut que plus de gars prennent la parole sur ces enjeux-là. Puis c'est toujours hyper complexe parce que tu veux pas te positionner en le gars qui donne des leçons. Puis je suis convaincu que Farnell pourrait trouver des exemples. En tout cas, moi, je vais vous le dire, je peux trouver des exemples parce que si j'avais à revenir dans le passé, je parlerais à une fille d'une façon différente. Je poserais peut-être des gestes d'une façon différente. Il y a personne qui est parfait, mais à un moment donné, si tout le monde se dit, ben là, ce sera aux autres de prendre le drapeau puis de le porter... On n'avancera jamais.
Non, on n'avancera jamais, t'as entièrement raison. Beaucoup d'hommes qui réagissent par texto, c'est super intéressant de vous lire au 418-971-1021. Carl qui mentionne « La violence en général est tellement propre aux gars parce qu'il y a 11 pénitenciers au Québec, 10 sont pour des hommes, 1 pour des femmes. » En effet, c'est un ratio quand même assez important. Il y a beaucoup d'hommes qui parlent de violence psychologique autant des deux côtés, en effet. C'est un point.
Je peux réagir à ça parce que je veux dire, le commentaire est légitime, mais c'est pas parce que tu ouvres un refuge pour chats que tu haïs les chiens. Là. Il y a personne qui est en train de dire que ça n'existe pas
non,
hommes qui se font aussi très maltraiter par leur blonde.
C'est juste,
il n'y a pas eu de masculinicide encore, à ma connaissance, cette année, puis il y en a eu 5 féminicides. Mm-hmm. Alors là, regardons là où le problème est.
Ah oui, regardons en face.
Sans aucunement nier qu'il existe d'autres problèmes.
Exactement, regardons en face. Les hommes, on a une problématique en général, à l'heure actuelle, au Québec, il n'y a pas de doute. Farnell, il nous reste à peu près 3 minutes. Je veux que tu nous parles des nouvelles lois qui sont apparues justement pour faire en sorte qu'on soit plus sévère envers les hommes qui malheureusement franchissent la limite. Puis avant ça, je veux rappeler aux hommes qu'il existe une ressource ici à Québec qui est le GAPI, qui est le groupe d'entraide pour les personnes impulsives. Tu sais, la stime vous montre trop souvent avec votre blonde là, ou votre conjointe. 418-529-3446. 418-529-3446. Appelez-le, ils vont vous prendre en charge.
Bien, il y a deux projets de loi au niveau fédéral, puis je vais en parler, puis après ça, je pense que je vais laisser la parole à Lambert parce qu'il connaît mieux ce qui s'est passé au niveau politique québécois. Il faut le reconnaître, il y a eu des très belles choses qui sont faites dans les dernières années. Alors, au niveau fédéral, il y a présentement le projet de loi C-16 qui veut criminaliser le contrôle coercitif. Ça, c'est un ensemble de comportements qui ne sont pas individuellement codifiés comme des crimes, mais qui, dans l'ensemble, comme un code de comportement, mène à une forme de violence conjugale et ça va être reconnu dans le code criminel. Ça, je pense que c'est une super belle chose. Il y a un autre projet de loi, le projet de loi C-223, si je ne me trompe pas, qui veut aussi modifier la loi sur le divorce pour, entre autres, reconnaître les différentes façons que la violence conjugale peut se manifester dans les relations familiales avec les enfants dans le divorce.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui se passent à la séparation, malheureusement.
Exactement. Puis tout ça, c'est des projets de loi qui ont déjà été essayés dans le passé ou des variantes que des fois sont morts au feuilleton avec changement de gouvernement. Mais là, on semble positionné pour que ça avance. Ces deux projets de loi qui sont soit à la deuxième lecture à Ottawa, c'est-à-dire qu'ils avancent dans le processus ou qu'ils vont l'avoir bientôt. Je nous encourage tous à suivre ça, à contacter nos députés pour dire ce qu'on en pense. Et puis espérer que ça avance. Mais quoi, je veux dire, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu des très belles choses, puis je passe la parole à Lambert.
Oui, en termes politiques, au Québec, Lambert, c'est quand même un sujet qui fait beaucoup parler. Qu'est-ce qu'on a avancé?
Oui, on entend souvent, tu sais, le négatif entourant ce qui n'est pas fait dans ce dossier-là, mais je pense que c'est important, surtout à la fin de cette chronique-là, avec ce qu'on vient de dire, de mettre la lumière sur le positif. Tu sais, on parle évidemment du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale, une première au Québec qui a été mise en place par le gouvernement de la CAQ. Rehaussement significatif de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Il y a eu 4 nouvelles maisons d'hébergement, 350 places, plus des maisons en deuxième étape, les bracelets anti-rapprochement, la campagne de publicité que tu viens de mettre. Ça, c'était une première au Québec. C'était la première fois qu'il y avait une campagne de publicité sur la violence envers les femmes. Directrice générale à la Sûreté du Québec, une femme, une première aussi. Le budget de lutte contre le proxénétisme et la traite des femmes qui avait été réduit par le gouvernement Couillard, rehaussé 20 millions par an. Nouvelle escouade, le droit à l'avortement aussi, qui a beaucoup fait jaser dans le projet de loi Constitution, mais il y a quand même beaucoup d'argent qui a été investi pour améliorer l'accès, réduire les délais. Après ça, on peut rentrer dans les femmes plus en général, là, les salaires, le nombre de places en garderie, tout ça. Si bien que, quand même, des résultats probants, peut-être pas au niveau de la violence faite aux femmes, mais quand on regarde l'écart de revenus entre les hommes et les femmes au Québec, c'est au Québec qui est le plus faible, pratiquement, en fait, en Amérique du Nord. Puis c'est quoi le taux d'activité des femmes, c'est ça, sur le marché du travail, qui est le plus élevé dans sur toute la planète. Les femmes québécoises sont très actives sur le marché du travail, en hausse de 87 à 88 %
Fait que maintenant, on chiale souvent après le gouvernement, mais les deux paliers de gouvernement, que ce soit au fédéral avec des lois, que ce soit avec des programmes au provincial, ont fait leur travail. Donc les gars, ça nous autre de faire notre travail. Et je rappelle en terminant les numéros. Vous êtes victime de violence conjugale. 1-800-363-90-10. 1-800-363-90-10. On va vous prendre en charge. On va vous sortir de votre milieu de violence. Vous êtes un gars que la Steam monte trop? 418-529-3446. C'est le groupe d'entraide pour les personnes impulsives. 418-529-3446. Appelez-le, vous ne commettrez pas l'irréparable et vous allez retomber sur vos pieds, vous allez décanter. Farnell, Lambert, merci, c'était une super discussion. Pascal, merci. Ouais. C'était vraiment très plaisant de faire cette discussion-là. Maintenant, les auditeurs de Boulevard, on change notre comportement, s'il vous plaît, si on a des mauvais comportements. Après la pause, justement, on va parler d'un autre groupe vulnérable, Pascal. C'est les jeunes de 6 à 12 ans qui se retrouvent en centre jeunesse. Donc, ils se retrouvent un peu prisonniers du système. On parle avec la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill. Elle a commencé son plan, justement, de redressement de la DPJ. Et elle va commencer par des actions concrètes sur les 6 à 12 ans pour leur donner des milieux familiaux plus positifs que les centres jeunesse.
6 ans en centre jeunesse.
Oui, exactement. Donc, on parle de ça avec Leslie Hill. J'ai très hâte de l'entendre, honnêtement. Quand on parle de bonnes actions gouvernementales, ça va en être une autre et il faut les féliciter. Vous êtes à l'émission d'En Jase sur Boulevard 102.1. Exactement, midi 35 minutes. Vous avez raté notre excellente discussion avec Farnell Morisset et Lambert Drainville à propos des 5 féminicides faits déjà depuis le début de l'année. C'est la moitié de l'an passé. La violence faite aux femmes, bien, ça va être disponible sur notre page YouTube et également sur le blvd.fm immédiatement après l'émission. Pour la page YouTube, Max Larouche vient de nous la mettre déjà. Donc, merci à Max Larouche pour sa contribution. François qui écrit... J'étais présent au lancement de la grande réforme mercredi dernier et waouh, un beau projet de société pour la DPJ. C'est très plaisant, François, que tu interagisses comme ça au 418-971-101 parce que Pascal, on a au bout du fil justement la directrice en matière de protection de la jeunesse, Leslie Hill, qui va nous parler de sa nouvelle réforme concernant les jeunes de 6 à 12 ans et les centres jeunesse. Madame Hill, merci infiniment d'être présente à l'émission d'En Jase aujourd'hui.
Bonjour à vous.
Madame Hill, je vous lance comme ça. Vous avez décidé de faire une réforme pour les 6 à 12 ans. Pourquoi vous constatiez qu'il y avait vraiment des lacunes pour cette clientèle-là?
Honnêtement, je pense qu'on a besoin d'un grand coup de barre pour changer de direction au Québec par rapport à cette jeune population. Parce que ce que je vois, c'est des enfants qui deviennent institutionnalisés au Québec et ça, j'en veux plus.
OK, alors c'est une réponse hyper concise. Moi, je veux vous la faire développer parce que quand j'ai vu qu'il y avait des enfants de 6, le 6 m'a frappé très fort, à 12 ans en centre jeunesse, on parle de quel enfant, on parle de quel parcours, parce que c'est très jeune, 6 ans, là.
Oui, puis on parle d'enfants qui malheureusement ont... En fait, ils portent en eux des traumatismes assez graves et profonds et... Bien sûr, on essaie de maintenir les enfants dans leur milieu familial d'abord, hein. Puis si on peut pas, mais les premiers choix, c'est grand-maman, oncle, tante, etc., des personnes significatives. Et après ça, on a quand même un réseau de familles d'accueil. Si on a des enfants en centre de réadaptation, c'est que toutes ces solutions-là que je viens de nommer ne fonctionnent pas pour eux. Et on a des enfants qui sont incapables d'investir des adultes et qui font des crises même dès qu'on essaie de les approcher. Donc, des petits-enfants terriblement blessés et pour qui on a besoin d'une attention particulière, mais des services spécifiques développés pour leurs besoins. Et malheureusement, on a développé une réponse plus institutionnelle au Québec, puis c'est ça que j'essaie de virer de bord.
OK, je comprends que vous dites que c'est des enfants qui, bon, habituellement, on aurait pu peut-être placer en milieu familial et tout ça, mais par les comportements, les blessures, etc., les traumatismes, ça vient à être des enfants plus difficiles, donc c'est pas mal les centres jeunesse qui étaient la réponse à un enfant qui ne s'intègre pas en milieu familial. Bon, c'est un peu ce que j'ai compris. Par contre, le centre jeunesse est trop institutionnalisé, trop froid, moins chaleureux et tout cela, c'est ça que vous voulez faire changer? Si oui, ce serait quoi la solution?
Mais des petits ont besoin d'être dans un milieu familial, dans la communauté, dans la mesure du possible. Puis quand c'est pas possible, bien, il faut que nos milieux se rapprochent de ça. Je vais le dire comme ça. Puis on veut avoir des enfants qui sont inscrits à leur école de quartier, pas scolarisés à l'intérieur d'une institution. Donc, pour ça, on a quand même des foyers de groupe actuellement un peu partout au Québec. C'est des petites maisons unifamiliales dans des quartiers. Ça paraît pas que c'est un foyer de groupe. Il y a des petits-enfants de 6-12 qui habitent là et qui ont une équipe quand même stable parce que ces milieux-là, c'est nos équipes les plus stables, investissent le foyer, les enfants. Donc, on arrive à développer une réponse quand même jusqu'à maintenant pour une certaine partie de ces enfants-là. Mais je pense qu'on a besoin de diversifier nos moyens pour s'assurer que, de un, quand on a besoin de les utiliser, qu'il y en a en taille suffisante ou en quantité suffisante, avec du personnel formé, qualifié. Mais de deux, du jour un qui rentre là, il faut qu'on soit en train de planifier la journée de sortie, vous comprenez? On veut pas qu'ils restent là trop longtemps parce que même là, ça peut devenir des enfants qui sont plus institutionnalisés puis qui ont plus de difficultés à investir un milieu familial.
Pour rappel, on parle avec la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill, sur une réforme concernant les 6 à 12 ans dans les centres jeunesse. Madame Hill, j'ai énormément d'admiration et de respect pour les intervenants qui travaillent à la DPJ. Ceci dit, on a entendu et on a vu dans les médias plusieurs cas de négligence. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la situation et surtout s'assurer qu'il n'y ait plus d'enfants qui passent dans les mailles du système?
Oui, bien, vous parlez d'une réforme avec les 6-12 ans, mais on s'en vient avec quelque chose de beaucoup plus costaud que juste la dimension de l'hébergement. Donc, c'est une petite annonce parmi beaucoup d'annonces à venir. Donc, ce système-là, la première chose que je vous dirais, c'est il faut que ce soit seulement utilisé dans des cas de maltraitance importante, avec un niveau de vulnérabilité important des enfants. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est la maltraitance faite aux enfants, les abus physiques, les abus sexuels. Et au fil des années, on voit vraiment une augmentation et de plus en plus de situations qui sont signalées où les parents, les enfants, ils n'ont pas eu les services qu'ils avaient besoin avant. Il y a toutes sortes de situations où on voit des problématiques sociales. Donc, quand on parle de réforme de nos pratiques, dans le sens, le grand sens du nous, comme société, on a besoin de revenir sur la prévention, sur qu'est-ce qu'on offre dans les communautés, les milieux scolaires, les services de garde, les CLSC, comment on travaille avec les gens bien avant d'utiliser une loi matraque dans leur vie, là. Puis cela dit, le système lui-même a besoin de se corriger sur un certain nombre de choses aussi et améliorer les pratiques spécialisées pour certaines populations. Donc, je dirais que c'est un peu mes deux gros volets, hein. C'est la prévention, le soutien familial, et après ça, comment on améliore les pratiques spécialisées, y compris l'hébergement, mais c'est beaucoup plus large que ça, là, on s'entend. Oui.
Mais je vous écoute et je trouve ça fort intéressant. Là où j'ai un peu de difficultés, puis peut-être que vous allez me rejoindre là-dessus, mais il y a eu le rapport Laurent, les recommandations de Mme Régine Laurent qui a travaillé fort sur les dossiers. Là-dedans, ce qui m'avait marqué l'esprit, c'est de se dire, tu sais, s'il y a un enfant turbulent à l'école, là, il est insupportable. L'enseignant, il a bien de la misère. Puis comme n'importe quel parent, des fois, ça peut être insupportable, un enfant. Et là, il n'y a pas de canal de communication entre peut-être intervenants de la DPJ, enseignants, parents, peu importe, pour qu'ils s'échangent l'information. Du genre, hey, il y a eu violence à la maison. L'enfant va arriver aujourd'hui, puis ça se peut qu'il soit tannant. Donc, on a une approche différente en tant qu'enseignant à ce moment-là. Il n'y avait pas de canal de communication, puis il y avait dans des extraits du rapport, Laurent, des recommandations comme quoi il faut de la communication. Il n'y a, oui, a pas grand-chose qui ont été appliquées là, du dit rapport, mais il y avait des choses là, tellement brillantes.
Moi, je vous dirais, j'étais commissaire sur cette commission-là, oui, moi aussi, avec Régine. Donc, je suis une des signataires. Il y en a eu des choses de fait. Mais dans ce que vous dites là, il manque un gros morceau qui est le CLSC. Ça peut pas être le DPJ, le premier niveau pour le milieu scolaire quand un enfant est en difficulté. On a besoin d'être capable de faire autre chose avant. Maintenant, ce que le rapport Laurent a dit, par exemple, c'est quand un enfant est déjà pris en charge pour maltraitance, il faut que les communications soient là entre les milieux scolaires et le DPJ.
Ça, ça a changé ou pas?
Ça, c'est pas à mon goût encore. Honnêtement, cette collaboration intersectorielle, je pense qu'on va devoir la forcer. Mais malgré que je dis ça, il y a des super de beaux modèles qui ont été développés depuis ce temps-là.
À quel endroit?
Pour agir ensemble. Mais Estrie, c'est vraiment notre coup de cœur. C'est le projet Agir ensemble qui est en déploiement maintenant dans d'autres régions aussi, où le milieu scolaire, le DPJ et le CLSC s'assoient avec le communautaire pour parler de situations difficiles.
C'est sûr que quand on a eu la fillette de Granby du côté de l'Estrie, peut-être qu'on a bougé un petit peu plus vite, là.
Bien, c'est sûr.
Ça, c'est déplorable aussi, il faut attendre ça.
Bien, ils ont été tous traumatisés, hein, ces réseaux-là, y compris le milieu scolaire. Donc, on a vu poindre ce projet-là de concertation beaucoup plus vite à Granby qu'ailleurs à cause de ce qu'ils avaient vécu. Mais il faut apprendre de ça puis l'étendre. C'est ça qui est en train de se faire au Québec. Mais ça, c'est un modèle. Il y a aussi un autre modèle qui s'appelle « Ma famille, ma communauté », où on s'assoit avec tous les acteurs d'une communauté autour des familles pour essayer de trouver des solutions. C'est en déploiement, mais c'est pas à mon goût encore. Mm-hmm.
Madame Hill, chose certaine, en tant que directrice de la protection de la jeunesse, puis je vais vous donner mon opinion personnelle, je trouve que vous avancez bien présentement les dossiers. J'ai confiance, on va vous avoir à l'œil.
Merci.
On va vous avoir à l'œil, puis on va vous reprendre en entrevue prochainement avec d'autres actions que vous allez faire.
Bien, merci beaucoup. C'est vraiment gentil de votre part.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Leslie Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse. On a entre autres parlé des 6 à 12 ans. On comprend qu'il y aura d'autres actions dans le programme, notamment en ce qui a trait là, aux actions qui doivent être prises en charge par le milieu, un milieu qui doit se parler, évidemment, davantage.
Le midi, on en jase. À Boulevard Saint-Denis.
Émission On en jase, c'est ton émission du midi, c'est ton émission d'actualité de midi à 14h. À la météo, c'est moins 15 degrés, moins 27 avec le refroidissement éolien. Alternance de soleil et nuages pour demain, moins 11 et moins 12 ensoleillés pour dimanche. Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Depuis qu'on est entré en émission On en jase, on regarde le dossier sur les militaires là, accusés de terrorisme ici à Québec. Est-ce qu'ils auraient été trahis par un de leurs membres? Ben, de ce qu'on comprend, c'est que oui, parce que des documents policiers démontrent qu'un membre du Highland Stalk qui a signé une entente de collaboration avec les autorités, donc il serait devenu délateur. Ce sont des individus qui sont liés de près ou de loin aux Forces armées canadiennes, vous le savez. Ils ont été accusés au cours de l'été 2025, donc l'été passé, pour avoir facilité une activité terroriste, puis aussi avoir eu des ambitions territoriales, des ambitions probablement de se défendre contre des zombies. Ça aussi, c'est sorti dans les 10 dossiers.
Yes.
Mais vraiment, ce qu'on retient, c'est qu'il y aurait un délateur à l'interne maintenant. On aurait réussi à convaincre un des membres à nous donner de l'information. Ils étaient surveillés par la GRC depuis 2023. Ils étaient visés par d'importantes perquisitions aussi du côté de janvier 2024. Et l'opération avait permis de saisir plein d'armes à feu, des dispositifs prohibés, des munitions. Qui était parmi ces candidats, terroristes? Marc-Aurel Chabot, Simon Angers-Audet, Raphaël Lagacé. Ils ont été tous les trois accusés en lien avec le terrorisme l'été passé. Et leur présumé complice, Matthew Forbes, a été visé par des chefs liés aux armes uniquement. documents policiers qui continuent d'être épluchés. Pour certains, ça allait même probablement à être capable de mourir pour leur cause. C'est ce qu'on apprenait aujourd'hui aussi. Et ils avaient bien peur de la fin du monde et des zombies. Ce seraient des informations clés qu'on aurait eues de certains témoignages, entre autres du chef de bande qui était vraiment omnibulé par les dits zombies. La politique fait partie de nos bulletins depuis toujours et encore plus depuis un an. On n'a pas eu d'accalmie à ce niveau-là. Hein. Gouvernement péquiste qui revient à l'actualité. On voudrait mettre la hache dans les subventions pour financer les baisses d'impôts aux entreprises. Et on vient d'en parler, donc Paul Saint-Pierre Plamondon. S'il prend le pouvoir l'an prochain, ce serait dans ses ambitions. C'est très populaire sous le gouvernement caquiste et ce sera en échange d'importantes baisses d'impôts, donc en économie et sur bien d'autres sujets, le Parti québécois se positionne. On essaie probablement de faire des annonces avant la campagne électorale. Bien que ça peut leur attirer un petit peu de fougue, on est là-dedans en ce moment. Autre information qui vient de sortir, toujours dans des dossiers là, assez importants, la mafia montréalaise qui aurait mis un contrat d'au moins 800 000 $ sur la tête du chef d'un gang pour répliquer à plein de coups de feu envers des dirigeants qui sont en prison. Donc, il y a des choses qui brassent en prison, vous le savez, on en parle de plus en plus. Il y en a qui font la loi. Une fois qu'ils arrivent entre les murs carcéraux, ben c'est pas là où ça s'arrête, la criminalité. Et puis on comprend même qu'ils s'en créent d'autres criminalités. Et là, c'est le cas des attaques répétées contre la mafia montréalaise et il y aurait un contrat sur la tête d'un chef de gang et c'est d'influents mafieux qui ont été ciblés par des coups de feu dans la cour d'une prison de Montréal en novembre qui, avec enquête, expertise, nous révèle que ça se passe vraiment pas très bien et surtout entre les murs des prisons, on est capable d'élaborer des clans. Il y a beaucoup de choses sur la guerre des stupéfiants, sur le crime organisé en ce moment dans les médias. Je pense que ça a été une série d'articles qui attire beaucoup l'attention aujourd'hui. Sinon, dans Portneuf, introduction par effraction, on a attaqué les résidents et on a pris par la fuite, on a pris par la suite, la fuite, pardon. Deux suspects se sont introduits, c'est du côté de Saint-Casimir et ils ont attaqué les résidents. Ensuite, quitter les lieux. C'était hier sur la rue Tessier. Les victimes ont subi des blessures mineures. C'est la bonne nouvelle. Donc, leurs vies ne sont pas en danger. Mais on a réussi à s'échapper aux policiers par la suite. Aucune arrestation a été effectuée pour le moment.
Au sport, le Canadien de Montréal a battu les Nordiques du Colorado 7-3 hier au Centre Bell. 2 buts pour Nick Suzuki, première étoile du match. On va en parler en fin d'émission avec l'excellent chroniqueur sportif du 99.5, journaliste également, Alex Laramé. En attendant, ici à Québec, c'était à la une du Soleil. Un article de Émilie Pelletier, journaliste pour Le Soleil, une journaliste qui est sur le beat municipal de façon incroyable. Les résidents du centre-ville, ils en veulent moins, l'événement, sont écœurés de se faire déranger. Et Émilie Pelletier est avec nous en studio. Pascal, pour en parler, c'est-tu pas le fun? Comment ça va, Émilie?
Ça va bien, vous autres aussi.
Ça va super bien. On ne s'était pas croisé encore depuis le début de l'année. Fait que même si on est le 30 janvier, je souhaite une année 2026 remplie de succès.
Je pense que c'est officiellement la dernière journée où c'est possible de
c'est
se
possible,
souhaiter
hein?
ça.
C'est possible, hein? Une année.
Je suis contente d'être venue. Tout juste à temps.
Ouf! Une année en politique municipale qui va brasser. Après le centre-ville, ton article sur les gens du Vieux-Québec, on parlera justement des travaux du tramway. Mm-hmm. Tu as rencontré plusieurs citoyennes qui sont exaspérées des événements. J'ai pas le choix de te poser la question comme ça, Émilie. C'est-tu des mots de chialeuses qui veulent plus y avoir du monde proche de chez eux?
Et je te dirais qu'elles s'en défendent, ces dames-là, qu'ils ont lancé une pétition. Et on sait que ça date pas d'hier, hein, quand même, cette question-là des événements dans le Vieux-Québec, dans le quartier patrimonial. Et effectivement, je relisais, c'est très drôle, je suis retournée dans nos archives et j'ai retrouvé d'anciennes lettres d'opinion qui dataient des fêtes du 400e, donc autour de 2007, 2008, 2008. Et les gens se plaignaient à l'époque de plein d'événements. Donc, il y avait
Ça n'a pas changé,
de
effectivement.
Toutes sortes d'événements, je voulais dire, mais il y avait le moulin à images, par exemple. Il y avait d'autres événements. Un peu plus tard,
Clotaire Rapaille.
Oui, il y a eu également le Red Bull Crash Test, oui. Aussi, qui avait soulevé les passions à l'époque. Et effectivement, le maire Régis Labeaume, jadis... n'avait pas peur de dire que ces gens-là chialaient, parce que lui, il avait des ambitions pour le quartier, de ramener des événements, de le faire vivre avec de façon touristique, ce quartier-là. Et donc, ça revient, cette discussion-là, dans un moment où le Vieux-Québec, encore une fois, l'administration Marchand cherche à ramener 500 résidents permanents dans le quartier où il y a eu un déclin là, démographique au cours des, au moins des 20 dernières années. Et donc, ça revient parce que ces dames-là qui ont lancé une pétition au cours des deux dernières semaines, ce qu'elles disent, en fait, c'est ben oui, il faut s'attaquer à la question des commerces de proximité. Hein? On perd des épiceries, on a perdu encore un Jean Coutu à la ouais. fin janvier. Mais au-delà de ça, la qualité de vie, là, c'est aussi le fait de pouvoir être tranquille chez soi, de pouvoir stationner sa voiture sur un stationnement qui nous est réservé et qui, parfois, peut nous être volé, littéralement, par
quelqu'un qui a décidé qu'il prenait.
Absolument. C'est pouvoir marcher sur son trottoir sans être dans le trafic. Donc, c'est ce qu'elles expliquent et elles pressent l'administration, finalement, de s'attaquer à ça.
Mais je pense que la problématique risque d'être plus complexe que juste l'annoncer puis dire on aimerait ça et tout ça. T'sais, il y a eu beaucoup d'implantations d'Airbnb, il y a eu beaucoup d'implantations de locations à court terme. Il y a eu des rénovictions qui ont fait tasser beaucoup de gens vers d'autres quartiers de la ville de Québec. Puis honnêtement, le stationnement, avec l'arrivée du tramway, ça va être aussi difficile. As-tu espoir, toi, ou tu penses que ça va être juste des paroles frivoles pour la suite?
Mais écoute, lorsqu'on rencontre ces dames-là, on sent quand même que c'est une espèce d'ultimatum ou un dernier cri du cœur. Je l'ai vraiment senti comme ça. Il y en a une de ces résidentes-là qui habite le Vieux-Québec depuis plus de 20 ans. Elle me dit, cette pétition-là, c'est un peu mon dernier shot. Là. Je l'essaie. Puis en même temps, lorsqu'on parle à l'administration Marchand, donc la conseillère municipale du secteur, Mélissa Coulombe-Leduc, elle le garantit, là. L'intention de la ville, ce n'est pas d'ajouter davantage d'événements. Parce qu'à l'heure actuelle, les citoyennes à qui j'ai parlé en recensent 19 au cours de l'année, OK? Elles ont fait...
Trouvent que c'est trop.
Elles trouvent que c'est trop, qu'on devrait non seulement mettre un moratoire sur le nombre d'événements, mais également, à terme, en retirer. Et ce n'est pas de dire, on ne veut plus que ces événements-là se tiennent, mais est-ce qu'ils peuvent se tenir de façon éclatée ailleurs en ville. Elle plaide qu'il y a beaucoup d'autres parcs que les plaines d'Abraham ou que le Petit Champlain ou que des secteurs où on se tient des événements, des petites rues résidentielles également du Vieux-Québec, où on pourrait faire des événements ailleurs en ville pour finalement faire profiter possiblement également d'autres commerçants ou d'autres.
Mais je me trompe-tu, Émilie, où c'était déjà dans l'idée de la ville? Tu sais, on a déjà entendu ça sous le joug d'un maire, là.
Oui, eh bien, absolument.
C'était pas le maire Marchand?
Ben oui, depuis la première campagne électorale, effectivement, il y a cette volonté-là d'éclater les événements, d'en faire profiter les gens dans les arrondissements, dans les périphéries. Mais je veux dire, on se cachera quand même pas que les gens allaient voir un spectacle, peut-être dans la Haute-Saint-Charles, il y a peut-être moins d'attrait.
Bien, il y a moins d'attrait. Les gens veulent venir voir le Vieux-Québec, veulent venir voir les vieux murs, veulent venir voir les fortifications. Donc, c'est clair que, tu sais, si j'ai un touriste, « Hey, sais-tu quoi? Viens voir mon spectacle que j'organise dans un parc à Charlebourg. » Il va y avoir moins de monde que si je l'organise au centre-ville.
Oui, mais lorsqu'elles le calculent, elles disent quand même, ben oui, oui pour le Vieux-Québec, oui pour la vue de carte postale. Et les résidents, ce qu'ils disent, c'est également, on l'adore notre Vieux-Québec, c'est pourquoi on l'habite toujours. Hein. Si on ne l'aimait pas, peut-être qu'on l'aurait quitté il y a bien longtemps. Mais écoute, quand on parle de 19 événements qui s'étalent sur environ 87 jours dans l'année, et ça, on s'entend quand vous et moi, c'est concentré sur quelques mois, hein, en particulier, c'est les mois d'été, bien sûr, donc juillet, août, peut-être septembre. Ensuite de ça, plus tard, en septembre, octobre, il y a les croisiéristes également qui débarquent, le Petit Champlain, Place Royale et tout ça. Et ensuite de ça, bien, dans le temps des fêtes, ce qu'elles disent, c'est également, il y a une enfilade là, d'événements.
Oui, d'autant que le marché allemand qui a gagné énormément en popularité.
Donc, c'est ça, elles disent, il n'y a pas nécessairement plus d'événements. Il y en a quelques-uns qui se sont ajoutés au cours des dernières années. Il y a notamment l'Agora du Port de Québec qui a repris une programmation complète en 2022. Il y a également un nouvel événement sportif. Il y a le nouveau Festival des arts de la rue de la ville de Québec également.
Cigale, la Baie-de-Beauport.
Oui, Réverbère, tout ça. Donc, il y en a quand même plusieurs, mais ce qu'on dit aussi, c'est cette volonté de faire de Québec une ville qui bat tous les records d'achalandage. Dans le temps des fêtes, on a salué Québec comme
c'est
étant
pété
la
bretelle.
Destination numéro un au Canada pendant le temps des fêtes. Les gens qui l'habitent sont pas contre ça, mais disent est-ce qu'on peut voir à protéger la qualité de vie des résidents en contrepartie. Donc, quand même, tout un mandat pour l'administration Marchand de faire trouver ce juste équilibre.
Ils sont un peu dans une situation perdant-perdant, là, l'administration Marchand. Toi, tu le vois comment, puis c'est ma dernière question, tu vois ça comment poindre à l'horizon? Est-ce que tu crois qu'il va y avoir une vague de départ de citoyens du Vieux-Québec, puis que ça va être des nouvelles personnes qui vont arriver et qui vont se dire, ben moi, je m'en viens habiter au Vieux-Québec, puis je le sais qu'il y a plein d'actions et je vis bien avec ça? Ou tu penses que l'administration Marchand va être capable justement de faire cet équilibriste-là et garder les gens?
Bien, moi, je pense que ceux qui y sont toujours sont clairement des gens amoureux du Vieux-Québec. Mm-hmm. Ce sont des gens qui l'aiment, qui ont choisi de ne pas le quitter. Et puis, quand on lit les commentaires, il y en a plusieurs qui disent, bien, effectivement, c'est que les irritants s'accumulent et donc vont menacer peut-être de le quitter. Qui est-ce qui sont ces gens que l'administration Marchand a l'intention d'amener vivre dans le Vieux-Québec? Bien, effectivement, il faut que ce soit des gens qui, lorsqu'ils décideront de venir l'habiter, ce quartier-là, vont être en connaissance de cause.
Oui.
Je veux dire, il faut...
Puis vont aimer cette vitalité-là.
Oui, absolument. Il faut aimer ce mode de vie-là. Mais il y en a d'autres qui disent, ben moi, écoutez, l'été, c'est rendu invivable. Je m'en vais dans ma maison à la campagne pour m'en sauver. Donc, est-ce que ce mode de vie-là, justement, il plaît à des familles? Est-ce qu'il plaît à des travailleurs? Davantage à des jeunes professionnels?
Des jeunes professionnels, c'est ce que j'allais dire.
Exactement.
Ce qui me faisait le plus rire, c'est d'entendre quelqu'un qui disait, effectivement, j'étouffe dans le Vieux-Québec pendant, certains moments de l'année, mais qui mettait son logement, tiens, en location. Donc, attirait les touristes pour partir ailleurs.
Pour partir ailleurs.
Oui, bien, je pense que... Puis, en fait, c'est ce qui est très drôle dans ce dossier-là, c'est que les dames m'ont expliqué qu'elles ont distribué des tracts pour essayer de convaincre les gens de signer leur pétition à déposer puis à présenter à l'administration municipale. Et elles disent, une semaine plus tard, on est repassé dans les mêmes rues où on avait fait ces distributions-là et les tracts, les dépliants sont toujours dans les boîtes aux lettres et personne ne les a pris. Les volets sont fermés. Alors donc, résultat, il n'y a personne qui habite là. Il y a énormément de gens qui investissent dans le quartier. Elles-mêmes me disent qu'elles connaissent des voisins qui habitent Toronto, qui habitent ailleurs au Canada ou ailleurs même à l'international et qui ont un pied-à-terre dans le Vieux-Québec, mais ne l'habitent pas à l'année. Alors...
Émilie Pelletier, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui en studio avec nous à l'émission Nageurs. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Continue à faire ton excellent travail dans le soleil parce qu'à chaque jour, j'en apprends sur ma ville grâce à toi. Je suis très, 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 très heureux. Si vous ne lisez pas Émilie Pelletier dans le soleil, commencez à le faire sur les différentes plateformes. Vous allez savoir exactement ce qui se passe dans votre ville. Courte pause à Boulevard 101, l'émission Nageurs. Par la suite, Pascal, gros congrès du Parti conservateur du Québec. C'est cette fin de semaine que ça se passe. On se crinque, on se pompe en vue des prochaines élections générales. Le Parti conservateur qui score pas juste à Québec, 23% à Chicoutimi dans un sondage qu'ils ont fait à l'interne. On parle de ça avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Au retour de la pause.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Il est présentement 13h07. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV, ton émission d'actualité du midi sur les ondes de Boulevard. Le retour de Denis Gravel avec Denis Véro et Audrey va suivre à 14h. Et je vous parlerai plus en détail de la programmation de fin de semaine tout à l'heure, mais de 18h à 20h ce soir, c'est le Garage à Dan, où vous retrouvez les meilleurs succès rock, notamment dans son Jukebox. Pascal, une très grosse fin de semaine pour deux partis conservateurs. Parti conservateur du Canada, congrès ce week-end à Calgary. Parti conservateur du Québec tient son congrès également. Et là, j'ai une question pour Éric Duhaime, parce que hors d'onde, on parlait de bagues, puis de mariage, puis toute l'équipe. Ça m'a fait penser avec Éric Duhaime qui est là comme chef du Parti conservateur du Québec. Salut Éric.
Bonjour Jeff.
Avec Karim Elabouy qui est le représentant, autrement dit, la figure de proie du comité santé du Parti conservateur. Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Good. Monsieur Duhaime, est-ce que c'est là qu'on va faire le mariage entre le PCQ et Maïté Blanchette-Vézina?
Non, on n'a pas rendu ni à l'étape du mariage, ni à l'étape de la bouquetière. Là. On est à l'étape que je la présente à ma famille. Elle va venir...
Encore? C'est pas fait?
Non.
Moi, là, si j'étais en couple politique avec quelqu'un qui ne m'a pas encore présenté à sa famille après plusieurs mois, il prendrait le bord, là.
Bien, moi, je pense que, Pascal, tu sais, quand tu vas trop vite, des fois, tu déboules les marches.
Ben oui, mais là, ça fait 6 mois.
Ça marche pas, tes relations, des fois, c'est peut-être parce que tu vas trop vite dans tes étapes.
Bien au contraire. Bien au contraire, mais après 6 mois.
On va la garder.
Mais après 6 mois. C'est peut-être une fille qui passe, qui saute des étapes.
Tu sais très bien que j'ai eu des relations de longue date.
Moi, j'étais un gars qui
aime avoir... On va garder cet extrait-là, je l'aime.
Moi, j'étais un gars qui aime avoir des relations à long terme. Puis pour bâtir une relation à long terme durable, il faut pas brusquer les étapes.
Par contre, prenons ça sur des faits, OK? Surtout quand ça vient qu'à jouer dans mes brancards. Mais tu sais, pour dire. On est encore au même point, on est encore à présenter à sa famille.
Bien, il n'y a pas encore eu la présentation officielle.
Pourquoi?
Ça va se faire avec ma famille politique ce week-end parce qu'il n'y a pas eu de rassemblement de la famille.
T'attendais
encore.
Ça.
Ça, c'est le gros rassemblement de la famille qui va être au Lac de l'Âge demain et dimanche. Et Maïté Blanchette-Vézina va venir d'ailleurs faire un discours sur l'importance des régions et elle va rencontrer nos militants. On va même faire un point de presse commun. Et si tout continue à aller bien, moi, tu le sais, moi, je suis clair dans mes objectifs. Moi, je veux qu'elle soit candidate lors de la prochaine élection générale pour le Parti conservateur du Québec.
C'est elle qui se fait désirer,
et
pourtant.
Et je continue à la courtiser. Puis l'opération, en fin de semaine, c'est la présentation à la famille.
T'as pas répondu?
Ben oui, j'ai répondu.
C'est elle qui se fait courtiser, pourtant, si elle fait une allocution là, en fin de semaine.
Bien, ça fait partie de sa démarche à elle aussi. Je pense que tout le monde, tu sais, les rapprochements doivent se faire lentement. Je te l'ai dit, je veux que ça dure longtemps. Quand tu veux que ça dure longtemps, tu veux bien connaître l'autre, puis tu veux que tout le monde est autour, est à l'aise avec ça. Puis ça... Parce que, imaginez, là, je vous avais vu qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa il y a quelques semaines. Un député conservateur, là, il est allé à deux parties de Noël, deux soirs de
Michael
suite.
Michael Moore!
Puis il a changé de parti politique. Trouvez-vous que c'est normal?
Ben non.
Bon, ben des histoires comme ça, là, ça finit jamais bien. Mm-hmm. Moi, je veux pas ça. Je veux une relation à long terme, puis on le fait de façon civilisée puis correcte.
Éric Duhaime, quelles seront les priorités dans ce congrès pour le Parti conservateur du Québec?
Bien, la priorité, là, c'est bien de démarquer qu'est-ce que c'est être conservateur. On a présentement une espèce de chaos au Québec. Là. Il y a à peu près rien qui fonctionne.
Bernard Drinville n'est pas de centre-droit.
Ça, c'est un des problèmes.
Alex Boissonneau n'est pas de centre-droit.
T'es-tu humoriste aujourd'hui?
Ben non, mais c'est ce qu'ils disent.
Oui, mais tu sais, le dire...
Moi, je crois le monde.
Le dire et le faire, c'est deux choses différentes. Là. Mais il y a un problème au Québec. C'est pas normal qu'on soit l'endroit où on paye le plus de taxes et d'impôts, où l'attente en santé est épouvantable, où la dette explose, on a le pire déficit de notre histoire. Je veux dire, le modèle étatique, bureaucratique au Québec marche pas. On emploie de plus en plus d'employés de l'État, puis les services publics sont de moins en moins bons. Il faut un vrai changement. Le parti qui propose le vrai changement, le seul, c'est le Parti conservateur du Québec. En fin de semaine, on a des propositions. Le Dr Elayoubi et la commission politique ont travaillé là-dessus. Il faut qu'on on donne un coup de barre et dans les différents secteurs.
Puis
les...
Donc, je comprends qu'on va bien définir la droite au Québec. Puis on va dire aux gens, si vous votez pour nous, c'est pour ça. C'est quoi les grandes thématiques de la droite que vous voulez faire sortir?
Bien, écoutez, d'abord, c'est est-ce que oui ou non, vous voulez laisser plus d'argent dans les poches des travailleurs? La réponse pour nous, c'est oui. Est-ce que vous voulez, oui ou non, réduire rapidement la dette au Québec? La réponse, c'est oui. Est-ce que vous voulez améliorer l'accès aux soins en additionnant la contribution du privé en matière de santé? La réponse, c'est oui. Est-ce que vous voulez, de façon responsable, exploiter notre gaz naturel qu'on a au Québec pour être autosuffisant, autonome en matière énergétique? Notre réponse est oui.
Puis est-ce qu'on va avoir des pistes de solutions bien définies?
Oui, absolument. Il y a des propositions. Il y a une centaine de propositions là, que le Dr Elayoubi et la commission politique ont travaillé au cours des derniers mois.
Je vous vois, M. Elayoubi, Dr Elayoubi, avec vos feuilles devant vous. Bon, vous apprenez très bien qu'est-ce que la politique. Là. Vous avez l'air prêt, vous avez vos points de forme. Qu'est-ce que vous allez proposer en fin de semaine? Est-ce qu'on peut avoir un peu quelques points que vous allez faire ou là, c'est encore à ne pas présenter publiquement?
Ben non, on en a présenté ce matin en conférence de presse, oui, avec M. Duhaime. Puis il y en a quand même plus. Je peux vous en donner là, des centrales, par exemple. Là. Exemple, l'abolition du Fonds de développement économique du Québec. Okay? Ça, c'est très, très, très concret. On s'est rendu compte pourquoi, lorsqu'on parlait, on n'arrêtait pas de parler. On parle constamment de façon. On parle constamment en disant les mille et une subventions, la moyenne au bâton. On dit que M. Legault n'avait pas une bonne moyenne au bâton. Ce fonds d'investissement-là, pour chaque dollar qu'on investit, on perd 11 sous, ce qui est très médiocre comme résultat. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on veut dire, tant qu'à continuer à perdre de l'argent, on va tout simplement l'abolir et l'ensemble des investissements, on va graduellement les liquider dans le but de rembourser la dette du Québec puis d'honorer ce qu'on dit depuis longtemps. Nous, on est un parti qui veut, pour qui l'équité intergénérationnelle est super importante.
Alors, ce fonds-là, en santé sera transféré pour payer la dette?
C'est pas un fonds en santé, c'est le fonds de développement économique du Québec.
Et ça, ça va être aboli.
Absolument. Ça va être aboli.
Pour envoyer à la dette.
Pour envoyer à la dette. Ça, c'est quelque chose de très concret. On va demander au Trésor, le Conseil du Trésor, on ne veut pas juste que ce soit le Conseil du Trésor, on veut que ce soit le Conseil du Trésor et de l'efficacité gouvernementale.
Hey, mon Dieu, c'est quoi ça? Parce que là, ça semble être des beaux mots.
Souvenez-vous ce que le duo Paul Martin et Jean Chrétien avaient fait à l'époque. Souvenez-vous ce que le gouvernement Harper avait fait. Le gouvernement Harper, il avait demandé à ses ministres, il avait dit, vous devez absolument, vous avez un but, vous aider livrable. Vous devez déréglementer, passer par une déréglementation, vous enlevez des règlements. Lorsque vous enlevez de la réglementation, automatiquement, il y a des fonctionnaires qui sont coupés dans le réseau parce qu'on n'a plus besoin du programme en question. Donc, nous, c'est ça que le Conseil du Trésor va devoir aller dans tous les ministères, dire vous devez avoir des buts, des objectifs et des livrables de déréglementation. En déréglementant, il y a moins de fonctionnaires. On rétrécit la taille de l'État.
Par exemple, on déréglemente quoi pour que ça soit très concret dans la tête des gens qui nous écoutent? Si on prend un exemple.
Je pourrais vous donner un exemple, par exemple, en matière de santé, ce qui est mon domaine d'expertise. Il y a ce qu'on appelle il y a une planification centrale qui est très importante. On parle, par exemple, des activités médicales particulières. Ça veut dire que le gouvernement décide quel médecin fait quoi et où, OK? Ça, en déréglementant ça, puis faire comme le Canada anglais, puis faire comme à peu près toutes les juridictions au monde qui fonctionnent comme il faut, c'est les régions, on décentralise vers les régions, on demande aux régions, on demande aux hôpitaux, on demande aux installations avec un budget, de gérer, mais ce n'est pas le gouvernement. C'est-à-dire, si un professionnel de la santé veut s'installer à un endroit, ce n'est pas un fonctionnaire de déterminer s'il peut ou non, c'est à l'établissement s'il en a besoin. Ça, c'est une déréglementation très concrète qui fera en sorte qu'on pourrait couper de 150 à 200 fonctionnaires et améliorer le réseau de la santé de façon très importante. C'est le concept de décentralisation. Ça, c'est et de déréglementation en même temps.
Pour rappel, on parle avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, et le Dr Karim Elaoubi, qui est la figure de proie du comité santé du Parti conservateur. Éric, on parle beaucoup au fédéral que Mark Carney vole les idées du Parti conservateur du Canada et qu'il applique justement un programme conservateur en étant libéral. Je veux vous faire entendre, à toi et M. Elaoubi, Paul Saint-Pierre Plamondon, ce matin, à son congrès à Saint-Georges-de-Beauce, et on en parle par la suite.
Le gouvernement du Parti québécois va procéder à une réduction historique du fardeau fiscal des PME québécoises. On va avoir l'occasion au cours des prochaines semaines d'expliquer dans le détail comment on va faire ça. Mais ce qu'on doit comprendre de notre intention, c'est qu'on change le modèle et que ça va se faire à coût nul, dans la mesure où on gaspille des milliards en subventions comme si c'était Noël. On peut mettre fin à ce bar ouvert et simplement dire aux entreprises québécoises, on allège votre fardeau.
Le PQ, c'est en train de jouer dans la talle du PCQ.
Comme la CAQ l'avait fait, rappelez-vous, avec son virage conservateur au mois de septembre dernier, les idées de droite ont gagné du terrain au Québec. On le voit, le Parti conservateur du Québec est de plus en plus présent. Puis moi, je suis très fier, je suis très content d'entendre des adversaires politiques commencer à voler nos idées puis à essayer de s'inspirer de ce qu'on fait. Je pense que c'est œuvre utile. Avant d'être en politique, juste pour des votes, tu es en politique pour avancer des idées. Moi, je suis allé là pour faire bouger, ils appellent ça la fenêtre d'Overton, la fenêtre des idées qu'on débat sur l'espace public. Puis clairement, on est en train de gagner le combat des idées. Puis normalement, quand tu gagnes le combat des idées, tu gagnes le combat politique parce que les gens, ultimement, préfèrent toujours l'original à la copie. Si vous voulez vraiment qu'on élimine les subventions aux entreprises, vous êtes écœuré des Nordvolt, Lyon Électrique, Taiga et autres scandales, c'est pour le Parti conservateur du Québec qu'il faut voter. Je vous rappelle juste que monsieur Plamondon dit ça aujourd'hui, là. Mais quand on a donné 450 millions pour le fiasco de Lyon Électrique, M. Plamondon applaudissait et disait que ça n'en prenait plus des projets comme ceux-là. Fait que, tu sais, un moment donné, les politiciens qui parlent des deux côtés de la bouche en fonction des derniers sondages, je pense que la population est capable de voir clair puis ultimement fait confiance à ceux qui sont authentiques et vrais.
On avait commencé à parler un peu de ce qui allait être annoncé en fin de semaine. On est passé à un autre sujet, mais c'est souvent ce qui a été reproché au Parti conservateur dans les dernières années parce que, bon, Éric, tu t'étais représenté, tu montais ton équipe, là, on disait, ouais, OK. C'est correct de s'insurger, de dire on n'est pas d'accord avec ça, mais quelles sont vos propositions concrètes? De ce que je comprends, en fin de semaine, vous êtes prêts à le faire.
Oui, puis on l'avait fait. En fait, on a commencé au mois de novembre 2023, on a fait notre premier congrès. Là, en fin de semaine, c'est notre deuxième congrès, le dernier avant l'élection. À partir de toutes les propositions qui sont adoptées par nos militants, là, juste pour les gens qui ne sont pas dans les partis politiques comprennent bien, on prend tout ça. La commission politique se met au travail et il va pondre ce qu'on appelle la plateforme électorale à partir du programme du parti. Puis il va avoir un cadre financier pour être sûr aussi qu'économiquement, c'est réaliste ce qu'on propose.
Habituellement, ça va avec, oui.
Et normalement, ça devrait être présenté là, à la veille des élections. Donc, on est en train de travailler là-dessus déjà là, à partir de lundi, parce que le Congrès, ils vont voter leur proposition en fin de semaine. Puis à partir de lundi, la commission politique va se mettre au travail pour la prochaine étape.
Alors, en conclusion, vous allez être en marge de présenter pas mal tout votre plan avant la campagne électorale.
Bien, nos idées ne vont pas changer. C'est un parti conservateur, c'est un parti conservateur. On est le parti qui veut remettre de l'argent dans les poches du monde puis qui veut que dégraisser la machine. Ça ne va pas changer d'un matin, là. Sauf que ça va être plus précis, comme le docteur Elayoubi vient de le dire. Il va y avoir des propositions beaucoup plus précises qui vont être rendues publiques.
Éric Duhaime, Karim Elayoubi, merci beaucoup pour votre présence dans les studios dont en jase, les studios de Boulevard 102.1. On vous souhaite un excellent congrès cette fin de semaine et au plaisir de se reparler parce que on est dans une grosse année électorale au provincial.
Absolument. Merci à vous deux. Bon week-end.
Merci. Bon week-end. Pascal, après la pause, tu nous as préparé un dossier sur les camionneurs à rabais.
Ben, en fait, c'était même pas mon but. En fait, c'est parce que c'était l'ouverture de la session parlementaire du côté d'Ottawa cette semaine. Et on a amené des gens à témoigner, des gens qui sont victimes de ces camionneurs à rabais-là. Et rarement sont les moments où je pleure en écoutant des témoignages politiques. Souvent, ben, la politique me fait plus saigner des oreilles. Mais
grincher des dents.
Mais je dois être sadomaso parce que j'adore ça. Et là, cette fois-ci, j'étais fortement émue et même que j'ai appris à quel point on n'a pas avancé dans le dossier, malgré ce qu'on avait pris entre nos mains pour peut-être enlever des permis, suspendre. Il reste des choses qu'on ne comprend pas.
C'est souvent ce qui arrive, malheureusement, en politique. On en parle, bottines ne suivent pas les babines.
Je vous présente les témoignages de l'autre côté de la peau.
Excellent. On en jase sur Boulevard 102. Hein?
On en jase. Jusqu'on en jase.
Exactement 13h25 sur les ondes de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV. Où on fait le tour de l'actualité. On a des excellents invités en entrevue comme Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec. Ça va être disponible sur le blvd.fm. C'est le congrès du Parti conservateur ce week-end. Parlant du week-end, c'est le Garage à Dan. J'en parlais tout à l'heure. Qui est en ondes de 18h à 20h sur Boulevard Rock and Chill, 7h à 10h les samedis et dimanches avec l'extraordinaire Audrey Pinchot. Le Boulevard du Rock avec Dan Demen et Colosse les samedis et dimanches. Colosse qui est là le dimanche, Dan le samedi de 10h à 15h. Et le Racamat de 15 à 17h, c'est ta programmation du week-end. C'est la meilleure musique en ville. Parlant de musique, hein, c'est quoi ça, Pascal Sévon?
Jimmy Eat World.
Oh yeah! On écoute un peu le refrain. Là, Jeff Fortin, pourquoi tu nous parles de Jimmy Eat World? Premier band annoncé pour la tournée des 25 ans du Vans Rap Tour. Ça va être à Montréal les 21 et 22 août prochain. Donc, Jimmy Eat World sera de la partie, un ben original de la première tournée. Ça va être extraordinaire. Et dans une nouvelle un peu plus triste de showbiz, l'actrice Catherine O'Hara, connue pour étant la mère de Maman, j'ai raté l'avion, est décédée malheureusement à l'âge de 71 ans. Donc, on souhaite les sympathies à la famille. Pascal, on en parlait avant la pause. Les camionneurs à rabais. Eh, crime qu'on a jasé de tout ça dans la stratosphère politique à l'automne. Mais là, on est rendu au mois de janvier, puis tu es-tu en train de me dire qu'il ne s'est rien passé là-dedans?
Mais en fait, c'est juste que, oui, on pense qu'il se passe bien des choses, mais des fois, on se demande si c'est pas pour la couverture médiatique et non les engagements politiques sincères. Il y en a qui en ont eu des engagements politiques sincères, mais est-ce que ça avance réellement? Je vais t'annoncer que pour plusieurs chauffeurs, ils sont toujours sur les routes, même à la suite d'accidents mortels au moment où l'on se parle. Et j'ai été prise de court, même prise au cœur, des histoires de ces femmes-là qui ont témoigné cette semaine du côté du Parlement à Ottawa, parce qu'on a ouvert le Parlement, entre autres, avec cette histoire-là. Et c'est pas sans rappeler celle qui nous avait parlé au début, Claudia Boucher. Cette femme qui avait été victime d'un accident et s'était retrouvée entre un poids lourd et un autobus scolaire. Sa voiture était complètement détruite. Elle, elle était de passage et elle a livré un témoignage. Elle a parlé de toutes ses blessures physiques, également son choc post-traumatique. Mais elle se posait aussi beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que certaines choses n'avaient pas bougé encore à l'heure où l'on se parle? On écoute Claudia.
Le chauffeur du camion, pardon, avait eu des constats d'infraction, donc pour ne pas avoir arrêté sur des signaux allumés d'un autobus et avoir suivi trop près. Je n'étais pas suivie. Dans le fond, le camion est arrivé à toute allure et il ne regardait pas devant lui. Il n'y a eu aucune enquête criminelle. Donc, il y a eu une reconstitutionniste qui est venue sur les lieux de l'accident. Cette personne-là elle a le pouvoir d'un coroner, à ce qu'on m'a dit, et ça n'a pas été au criminel. Pourquoi? Il y avait une dashcam dans le camion. Elle n'a pas été saisie. Pourquoi? Le chauffeur est probablement au volant d'un autre camion. Safex a-t-il été enquêté? Pas à ce que je sache. Peut-être qu'il ne le saura jamais. Il continue sous son modèle d'affaires d'engager des chauffeurs à rabais et c'est bien reconnu.
Le témoignage également de Nathalie Potvin a été retenu à l'Assemblée nationale, très émotive, assurément, mais elle s'est même fait prendre de court par son émotivité quand elle a commencé à expliquer son histoire.
Le 18 décembre 2024, il y a un chauffeur qui est parti du port de Montréal avec un conteneur. Il a suivi le trajet jusqu'à l'autoroute 73. Il a passé par-dessus 14 panneaux. 14 panneaux qui lui disaient qu'il ne pouvait pas prendre cette sortie-là.
14 panneaux, puis il l'a pris quand même. Une enquête assez boboche, selon ce que raconte Claudia. Donc, on a du laxisme, Pascal.
Bien, c'est ce qu'on entend de ces femmes-là qui ont tout le courage du monde d'aller témoigner, puis ils veulent faire changer les choses, pas pour ramener leur défunt, parce que cette femme-là que vous venez d'entendre a perdu sa fille dans un accident de voiture. Je vous rappelle, c'est à Vallée-Jonction. Donc, le chauffeur allait trop vite dans une pente descendante. Il a voulu tourner à gauche, puis finalement, son camion s'est renversé sur la voiture de sa fille qui, elle, avançait à sa lumière verte. Elle a fait la description des panneaux qui ont été devant le dit chauffeur tout au long de sa route et qui auraient dû allumer une lumière.
Les premiers lui disaient que c'était la dernière sortie avant Vallée-Jonction parce que selon son poids et d'où il arrivait, il ne pouvait pas le prendre. Un autre qui disait que, plusieurs autres qui disaient que le tonnage maximum était de 15 tonnes pour prendre cette sortie-là. Pour vous faire une démonstration, là, le camion et le conteneur vide pèsent pratiquement le 15 tonnes. C'est impossible que si vous avez un chargement, vous ne dépassiez pas cette limite-là. Il devait effectuer un test de frein. Il ne l'a jamais fait. Il y a plusieurs autres pancartes qui lui indiquaient le degré de la côte. Il n'en a pas tenu compte non plus, j'imagine. Il ne savait pas c'est quoi. Et le dernier panneau qui aurait pu sauver la vie de ma fille... Il y a un lit d'arrêt à droite, quand on descend. Il n'a même pas tenté de le prendre. Probablement qu'il ne connaissait même pas ces panneaux-là. Moi, je ne conduis pas de camion. J'ai pas de formation. Puis pourtant, là, quand je les vois, ces panneaux-là, ils sont pas écrits en français, ils sont pas écrits en anglais. C'est des dessins. Je les comprends. Comment quelqu'un peut ne pas comprendre ça?
On s'entend-tu que c'est de la négligence notoire? On s'entend
vraiment
que c'est des pictogrammes. Donc, toi et moi, si on suit un cours, normalement, on aurait appris ces pictogrammes-là. On serait capable de les voir. Elle parle de plusieurs descriptions de panneaux qui sont tombés un peu dans l'oubliette pour le chauffeur, des contenus de service qui n'ont pas été faits aussi, la vérification des freins et tout ça. Tu sais, on regarde ça, puis c'est la base. Puis ces chauffeurs-là, je vous répète, sont toujours sur nos réseaux routiers au moment où l'on se parle. Le bout très difficile, c'est quand elle parle de l'accident en tant que elle, donc sa fille qui s'est retrouvée complètement ensevelie sous la vanne.
Son auto va être une crêpe. Tellement que l'accident est arrivé à 12h30. Ils ont réussi à la sortir de l'auto pour l'envoyer à la morgue à 4h30 l'après-midi.
Aïe, aïe, aïe. 4 heures de temps prise dans sa voiture. Ce qui me fâche là-dedans, Pascal, puis je veux savoir si les auditeurs sont aussi fâchés que moi, 418-971-1021, c'est qu'on parle de ce dossier-là depuis le mois de septembre.
Puis
comment
regarde,
ça, on est encore pris avec ça?
Puis tu sais, plus que ça, là, c'est des gens qui sont énormément émotifs là-dedans pour des raisons qu'on comprend.
Avec raison,
elle a perdu
là,
sa fille, on s'entend.
Oui.
Mais au-delà de ça, elle se dit, OK, ils sont encore ces routes. Puis au-delà de ça, on se dit, comment ça, tout ça est arrivé? Comment est-ce qu'on en est venu à laisser ces gens-là chauffer sans avoir eu toutes les études ou encore la formation nécessaire pour être dans nos autoroutes puis à chauffer des poids lourds et tout ça? Écoute, c'est encore plus criant quand tu l'entends dire comment est-ce qu'elle a appris que sa fille faisait un accident.
Comment on l'a su? Parce qu'elle avait son cellulaire avec elle et que c'est quand l'accident est arrivé, nous, on a dans les cellulaires, on rentre tous maintenant des contacts d'urgence. Quand vous avez un accident, quand le cellulaire a un coût important, on reçoit un texto, les services d'urgence sont appelés, puis il y a la localisation qui est envoyé aussi au contact d'urgence. Mais nous, quand ils ont parti avec Alexandra pour l'amener à la morgue, on a pu suivre son trajet parce que son cellulaire nous envoyait. Elle était rendue où?
Elle a appris la mort de sa fille via une application.
En fait, c'est ton cellulaire, puis ça, je t'allais vérifier. Ouais. Tu as des favoris que tu peux avoir en termes de contacts, si vous avez un iPhone, par exemple. Puis vous pouvez faire les trois petits points. Dans les trois petits points, ils vont vous offrir d'ajouter ce contact-là comme un contact d'urgence. Si moi, tu es dans mon contact d'urgence, Jeff, j'ai un accident. Le choc va être perceptible par mon téléphone cellulaire, puis ils vont t'envoyer une notification comme quoi il est arrivé quelque chose. Fait que tu peux appeler les services d'urgence pour moi. Tu peux dire, regarde, t'es à tel endroit.
Ce qui est très bien, mais là, dans cette situation-là, et le cœur du brisé. J'ai des frissons à y penser.
Et elle a vu sa fille être transportée à la morgue. Elle a beaucoup de critiques par rapport au chauffeur, puis elle se pose les mêmes questions. Pourquoi sont sur nos routes?
Comment on peut conduire un poids lourd sans formation? Là, vous allez me dire, oui, maintenant, il y a une formation qui est obligatoire. Oui, en 2020, au fédéral, vous avez demandé à ce qu'il y ait une formation minimale. Le Québec nous l'a promis en 2023, on l'a eu en 2025. Il y en a combien de gens qui aujourd'hui ont des permis et qui n'ont pas de formation? La personne qui a frappé ma fille, là, qui l'a tuée, il n'avait pas eu son permis la semaine d'avant. Là. Ça faisait quelques années déjà qu'il conduisait des camions. Et il en conduit encore toujours. Parce que comme l'enquête n'est pas terminée, bien, lui, les policiers n'ont pas le pouvoir de lui enlever son permis de conduire. Fait que quand vous allez partir aujourd'hui là, pour retourner chez vous, regardez les camions à côté, c'est peut-être lui qui conduit.
Dernier témoignage, c'est celui de Mélanie Séguin qui a eu tout le courage du monde aussi pour nous en parler. Je vous ramène dans le temps avec un accident mortel du côté de l'autoroute 30 à Brossard. On est en 2022 et il y a un poids lourd qui entre en collision avec 8 véhicules. On est autour de 22h30 et ça crée le dommage et les morts qu'on évoque.
Tuant sur le coup, du moins je l'espère, Loïc Chevalier, 11 ans, et Nancy Lefrançois, 42 ans. Maman de 4 garçons, blessant une dizaine de personnes, si ma mémoire est bonne, dont 3 grièvement. Le 5 octobre 2022, une rencontre est organisée par le corps policier de la SQ de Boucherville pour nous informer que l'accident est criminel avec les preuves qu'ils détiennent, cellulaire au volant, mais que l'intimé M. Singh a quitté le pays moins de 24 heures après l'accident.
Hey, j'ai le cœur fendu.
Imagine.
J'ai le cœur fendu de ces témoignages-là. Je te comprends d'avoir pleuré. Écoute, j'ai les larmes aux yeux.
Et puis là, c'est des segments que je te le dis. Mais tu sais, l'homme en question s'était sauvé. Maintenant, il est dans le processus judiciaire. Et en conclusion, on écoute une dernière fois Mélanie Séguin.
Aucune loi n'autorise la saisie du passeport pour le moment. Le 13 juillet 2023, les accusations contre M. Baljit Singh sont déposées comme suit. 2 chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort. 3 chefs de conduite dangereuse ayant causé lésions ou blessures. Monsieur Singh aujourd'hui fait face à la justice canadienne. Combien de frais supplémentaires la société a dû débourser vu la fuite de monsieur? Comment est-ce possible que le permis de travail de monsieur ait été renouvelé même si monsieur avait déjà des accusations criminelles en Ontario datant de janvier 2021? Comment se fait-il que monsieur soit lui-même considéré comme une victime en étant le principal accusé dans notre dossier, ayant commis 43 infractions au code de la sécurité routière entre l'Ontario et le Québec ce jour-là avant de les tuer? Derrière chacun d'entre vous, nos fonctionnaires, nos élus, vous avez des familles. Et si c'était votre sœur, votre fille, votre mère, vous feriez quoi?
C'est catastrophique ce qui se passe présentement sur nos routes. On a plusieurs textos qui sont rentrés. On nous parle de chauffeurs à rabais aussi pour Amazon et les différentes compagnies de livraison. Des gens qui sont aussi fâchés que moi. Des gens qui nous parlent des contrôleurs routiers aussi qui ont été absents, sur les routes. Faut vraiment, vraiment, vraiment que les gouvernements agissent parce que les trois témoignages que tu nous as fait écouter, Pascal, c'est rempli d'histoires qui sont le fruit de notre négligence.
Puis s'ils sont rendus en ce moment du côté du Parlement pour en parler, c'est parce que les choses n'avancent pas assez vite. Imagine.
Ouais, imagine. Donc, on va se faire un devoir de parler à nos politiciens de ceci, de continuer à garder ça dans l'actualité. Pascal Cévé, c'était vraiment un dossier excellent.
C'est grâce à eux, puis rappelons-nous, ils sont encore sur nos routes. Il y en a qui peuvent prendre la fuite et il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau des lois, des règlements pour faire avancer les conditions.
En plein ça. 418-971-1001 pour continuer à réagir avec nous. J'ai le cœur brisé, fendu en quatre. Après la pause, on va conclure cette belle semaine dans l'émission On en jase avec des manchettes, puis avec Alex Laramain. On jase un peu de sport. Je me rends compte peut-être que j'étais moins fâché finalement que les Nordiques du Colorado aient perdu après ton dossier. Le collègue Alex Laramain va être avec nous pour jaser de ça et faire nos petites prédictions sur le week-end et la semaine qui vient chez le Canadien de Montréal.
Partenaire en solution environnementale.
Les cadets, tu t'en sens capable? C'est juste pour toi. Des activités uniques et des défis à relever. Viens prendre ta place. Rejoins les cadets de la Ville de Québec. Embarque dans l'aventure. Informe-toi sur la page Facebook Cadets de la Ville de Québec.
La remise météo fait son grand retour cette année chez Enviro-Confort. Économisez gros sur votre facture avec 15 % de remise en janvier, 10 % en février et 5 % en mars. Et c'est sans parler des subventions. L'offre est disponible jusqu'au mois de mars sur les thermopompes murales et centrales. Profitez-en pendant qu'il fait encore froid. Financement disponible. Détails au enviroconfort.com.
Le tournoi Pee-Wee de Québec est de retour pour une 66e édition. Venez vivre cette magnifique tradition et encourager des équipes Pee-Wee de partout sur la planète. Une programmation incroyable vous attend du 11 au 22 février au Centre Vidéotron. Pee-Wee, tu veux être là.
Vous mangez vos émotions? Vous voulez perdre du poids? La solution, c'est Perte de poids Québec. Nous avons tous les produits et services pour votre amincissement. Infrathérapie, protéines, mets préparés, suppléments naturels. Suivez-nous sur Facebook et visitez Perte de poids Québec.
Prêt à vendre votre propriété? Avec Yann Genois, courtier immobilier, profitez de 12 ans d'expertise, d'un service humain et de stratégies qui rapportent gros. Maximisez la valeur de votre propriété dès maintenant. Contactez Yann Genois ou visitez yanngenois.com.
Yann Genois, votre vision, votre succès immobilier.
Envie de sortir et de passer une soirée différente? Pourquoi ne pas essayer le Kinzo? Partagez un bon moment entre amis en jouant à ce jeu unique où le suspense fait monter l'énergie d'un cran. Vous pourriez même gagner jusqu'à 25 000 $ Ou prenez simplement place au bar pour savourer une bouchée et profiter de l'ambiance. Venez vous divertir dans nos 21 salles situées aux quatre coins du Québec et découvrez dès aujourd'hui pourquoi le Kinzo est si unique. Kinzo, là où tout le monde se retrouve. Une expérience signée Loto-Québec, 18 ans ou plus.
Cet hiver, vivez Charlevoix autrement à l'hôtel Le Petit Manoir du Casino. Profitez d'une pause hivernale et économisez 25 % sur l'hébergement. Réservez votre séjour dès maintenant au petitmanoirducasino.ca.
Du 5 au 8 février, Simard Cuisine et Salle de bain vous attend à Expo Habitat Québec. Vous avez un projet de construction neuve ou de rénovation? Profitez-en pour en discuter avec notre équipe sur place. Pendant toute la durée du salon, une promotion Expo Habitat est en vigueur et une soumission rapide peut être faite sur place. Apportez simplement les dimensions de votre cuisine, nos designers vous proposent des choix et vous repartez avec une soumission budgétaire en quelques minutes. Simard Cuisine et Salle de bain, le haut de gamme plus accessible que vous ne le croyez.
Chez Desjardins, on croit que le REER et le CELI sont des sujets passionnants. Mais c'est peut-être pas le cas pour David ici. C'est donc l'heure de réveiller votre intérêt pour le REER et le CELI.
De quoi on parle?
De cotiser un REER et d'utiliser le remboursement d'impôt pour alimenter le CELI à l'abri de l'impôt.
Ça réveille du bon pied.
Cotisez en ligne dès maintenant sur desjardins.com/REER-CELI. Certaines conditions et modalités s'appliquent.
Calfeutrage Optimum tient à remercier sa fidèle clientèle. La saison 2026 est en préparation. Pour tous vos projets de calfeutrage de portes et fenêtres ou calfeutrage contre l'intrusion de la vermine, contactez-les. La soumission est gratuite. Calfeutrageoptimum.ca.
On en jase à Boulevard 102.1. Les gros dossiers du jour, ce qui se passe dans notre ville, tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
Émission en jase, 13h44 minutes. Je vous rappelle la météo pour la fin de semaine. Ça va être encore du temps froid, moins froid qu'aujourd'hui, quoique c'est moins 28 avec le facteur de refroidissement éolien cette nuit, mais c'est moins 11 alternant soleil et nuages pour samedi et moins 12 ensoleillés pour dimanche. Fait que vous allez pouvoir recommencer à sortir un peu.
Parlant de recommencer, on recommence-tu la semaine? J'ai l'impression qu'on est lundi, moi, pas vendredi.
Ah, ouais,
Est-ce qu'on repart une semaine ou.
Un petit deux jours de congé. La fête du beau Gabou, le fils à ma conjointe Val, 12 ans en fin de semaine. Ça s'en va au ice out avec ses chums, puis ça vient dans le sous-sol après la maison. Let's go! Ah, ouais, ça va être le fun. À côté. Julie qui nous écrit « Hey, c'est vrai, les livreurs d'Amazon, c'est catastrophique, même pas capable de trouver une adresse et laisser un paquet à la bonne porte. Sur 3 livraisons la semaine dernière, seulement une s'est rendue sur mon perron. »
Ben oui, moi, je me suis fait voler je sais pas combien de fois récemment, mais pourtant, c'est des portes fermées. L'autre affaire, c'est que j'en ai pogné un qui a pitché le colis, OK? Qui l'a vraiment swingé au bout de ses bras, puis il y a une caméra, fait qu'on le voit sur la caméra. Puis j'ai sorti ma tête par la fenêtre, il m'a fixé, puis il attendait de voir ce que j'allais faire. Ben, j'espère qu'il a compris, là, puis qu'il lancera pas vos prochains colis.
Il s'est dit, oh, je viens d'être pris la main dans le sac.
Il y a une passive agressive dans la fenêtre.
Comme un petit enfant qui fait un mauvais coup.
Oui.
Ou un joueur d'hockey, je coach au hockey à soir, tu sais, qui a vraiment une punition, puis là, il regarde, l'arbitre lève-tu le bras ou le lève pas?
Il essaie de confirmer ou infirmer.
Puis là, l'arbitre lève le bras, puis il fait comme, OK, je vais aller au bas des punitions.
Je le savais.
Exactement. Avant qu'on change d'hockey, justement, avec Alex Laramée de ce match canadien-nordique d'hier, Pascal, qu'est-ce qu'on retient à l'actualité pour rentrer dans le week-end?
Oui, certaines choses. Je te parlais des militaires accusés de terrorisme. Là, le chef présumé, ce qu'on apprend, c'est qu'il craignait une invasion de zombies, entre autres. Alors, on est vraiment là-dedans dans le gros dossier des ex-militaires de la région de Québec. La fin du monde, les zombies, ça lui faisait peur. On voulait se réfugier advenant notamment de ce genre de drame-là. Hein. Les zombies, c'est bien connu. Et l'autre affaire...
Oui, ça existe.
L'autre affaire qui est sortie du dossier aujourd'hui, et ça, c'est intéressant, il y aurait un délateur au sein du groupe, donc au sein du groupe Hide and Stalk. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup d'informations pendant l'enquête. Il y a vraiment quelqu'un, puis l'identité, elle est protégée en ce moment, qui aurait permis à la police d'avancer de façon assez importante. Et Marc-Aurel Chabot, Raphaël Lagacé, Simon Angers-Audet, je vous rappelle, ils sont tous les trois visés par plusieurs chefs d'accusation, entre autres, d'avoir tenté de faciliter une activité terroriste. Et il y a toujours Matthew Forbes, qui est là-dedans aussi, mais lui, il est accusé de divers chefs de possession de trafic d'armes à feu. Il a pu retrouver sa liberté en attendant la suite des procédures judiciaires. C'était la nouveauté dans le dit dossier. Les crests, les vestes des Hells Angels, eh bien là, automatiquement, ça constitue une organisation criminelle et donc c'est empreinte de criminalité et on pense que ça sert à intimider, à faciliter les crimes. Elles sont des biens infractionnels et c'est ce qui a été jugé par un juge de la Cour du Québec. On a ordonné aujourd'hui, en fait ce matin, la confiscation de vestes de 6 membres des Hells Angels et l'un de leur club école. Il n'avait pas été arrêté, accusé là, à la suite d'une enquête policière, mais on a quand même réussi à aller saisir leurs vestes. Alors ça, c'est une opération assez importante dans tout ça. On apprenait le décès de l'actrice Catherine O'Hara. 71 ans, malheureusement, elle est décédée. C'est une actrice canadienne, mais qui a fait beaucoup de films américains. Entre autres, Maman, j'ai raté l'avion. Elle a fait partie de la série Schitt's Creek, qui a été extrêmement populaire dans les dernières années. Et plus récemment, Beetlejuice, qui est revenue aussi un petit peu plus près de nous. C'est une femme, malheureusement, qui nous a quittés et qui a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empreintes culturelles.
Ah, vraiment. Un classique du temps des fêtes. Parlant de classique, c'était Canadien-Nordique hier.
Makar Vernichas, c'est raté. Matheson remet le disque à Kapanen. Et en lob, il remet vers Suzuki, en échappé. Suzuki, le tir!
Comme on disait, 7-1! C'est 3-1. Le Canadien l'a emporté finalement 7-3. Nick Suzuki, le capitaine de la formation de Montréal, a été la première étoile. Il a notamment marqué 2 buts. Et on a Alex Laramet avec nous pour en parler. Alex, performance pratiquement sans faille pour le Canadien hier.
Ah, c'est une performance qui va faire du bien pour les joueurs du CH. On le sait que dans les derniers temps, ça n'avait pas été facile. Oui, on avait gagné contre Vegas, mais on s'était fait encore remonter en troisième période. Donc, de sortir une grosse performance comme ça, où on a pratiquement, je veux dire, dominé du début jusqu'à la fin, là, je veux dire, c'est une performance sans faille pour le Canadien. Dobesch a été bon. Nick Suzuki, encore une fois, a été le capitaine. Le deuxième trio, vraiment, toute l'équipe s'est signalée, puis je pense que ça va faire du bien aux troupes, là, vu qu'on approche de la pause olympique. C'est important de ramasser le plus de points avant que, justement, on prenne un bon mois de congé pour les joueurs du CH.
Alex, moi, j'ai connu la rivalité canadien-nordique. J'ai connu les Nordiques. Ils ont quitté quand j'avais 15 ans. Hier, j'avais les frissons quand je voyais ces beaux gilets bleus-là contre les gilets rouges. Toi qui n'as pas connu la rivalité, comment tu l'as senti et qui est à Montréal, comment tu as senti cette soirée spéciale-là?
Bien, c'est sûr que c'est des images qui sont super le fun à voir. Là. Comme tu l'as dit, j'ai pas connu à l'époque des Nordiques, mais c'est un super beau chandail. Là. Tout le monde l'aime. Même Saint-Louis a été questionné là-dessus en point de presse hier. Puis même lui a dit que c'est du super beau chandail. On a vu aussi le chandail des Whalers plus tôt cette année du côté des Hurricanes. Donc, moi, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est bien du côté de la Ligue nationale qu'on accepte parce qu'on sait qu'on a dû demander l'autorisation de la Ligue nationale pour approuver 2 chandails de couleur parce qu'habituellement, il y a un chandail de couleur, un chandail blanc. La Ligue nationale a approuvé ça, qui, selon moi, était la chose à faire.
Ben oui.
Donc, le public aime ça, tout le monde aime ça, fait que pourquoi pas en faire plus? Puis on espère que peut-être l'Avalanche va ramener ce chandail-là dans les années futures. Honnêtement, moi, je suis pour ça. Je trouve que ça fait un super bel affrontement. Puis ça rajoute justement un match.
C'est pas les Nordiques, Alex?
Ouais, je sais. On comprend. Jeff, tu pourrais peut-être plus te prononcer là-dessus. Moi, personnellement, tu sais, j'ai pas d'attachement personnel aux Nordiques, fait que moi, que l'Avalanche le porte, moi, j'ai rien contre ça. Mais toi, Jeff, comment t'as vu ça?
Moi, j'ai trouvé ça super beau clin d'œil à cette belle rivalité-là. Même que ce matin, dans Marceau le matin, on se disait, coudonc, on le refait-tu à chaque année quand l'Avalanche vient à Montréal mettre les gilets des Nordiques? Moi, je suis pour à 100%. Je trouve tellement que ça crée une féerie, des fois, dans un match de saison qui peut paraître anodin. Donc, moi, pour
exact.
À 100%. Là.
Ben oui, non, totalement. Puis c'est l'Avalanche, en plus, ce qui est le fun en ce moment, c'est que c'est un bon club, fait que ça donne des bons affrontements.
Oui.
C'est sûr qu'hier, on a dominé, mais la dernière fois qu'on les avait affrontés, ils nous avaient quand même battus 7-2. Donc, d'avoir un club compétitif comme ça, puis qu'on peut faire remémorer des souvenirs à un peu tout le monde, moi, je pense que c'est juste bénéfique.
Je me suis positionné ce matin, Yannick Marceau aussi, parce qu'on n'était pas sûr depuis le début de la saison, de notre collègue Max Larouche qui disait, je vous le dis, c'est Jacob Dobesch, le gardien de but numéro 1 du Canadien. Là, on n'aura pas le choix de lui donner le filet. Bon an, mal an, il gagne les matchs.
Ouais, c'est vrai. C'est sûr que le plus important, on pourrait dire, la statistique la plus importante, en fait, ce serait les victoires. Mais tu sais, Dobesch, il a fait des gros arrêts hier. Là. On peut lui donner, mais c'est quand même un taux d'efficacité encore en bonne 900.
En effet.
Sur la saison, il est à 890. Puis il y a 3 semaines, on parlait de Dobesch comme est-ce qu'on va le renvoyer à Laval puis garder Fowler puis Montembeau. Donc, je pense qu'il faut se calmer un peu. Ça fait 2 belles performances pour Dobesch. On peut pas lui enlever. C'est super bon. On va le prendre. Mais je pense qu'en ce moment, avec le Canadien, on est dans une phase où on joue le gardien de but qui est hot en ce moment. Là, c'est Dobesch, il est sur une bonne séquence, mais si samedi, Dobesch accorde 6 buts contre Buffalo, puis ensuite, on revient 2 matchs, puis Samuel Montembeau fait des belles performances, on va dire, hey, Montembeau, ça va être le gardien numéro 1 pour la suite. Fait que je pense qu'il faut se calmer avant de proclamer Dobesch gardien numéro 1. On y va au jour le jour. Selon moi, il a mérité, par exemple, d'avoir peut-être le départ samedi contre Buffalo. Mais s'il y a une défaite, selon moi, Montembeau va revenir. Puis même, c'est pas impossible non plus que Samuel aille le filet samedi. Donc, je pense qu'il faut quand même calmer les attentes du partisan du Canadien. Oui, Dobesch est bon, mais on va attendre de voir s'il peut continuer ça, être plus constant dans ses performances.
Pascal, on va mettre le feu à l'émission d'En Jase. Maintenant, on va inviter Max Larouche en même temps qu'Alex Laramé, puis on va les faire débattre sur les gardiens de but du Canadien. Ça va être extraordinaire.
Oh là là, est-ce qu'on veut vraiment entendre ça dans le sens où on sait à quel point Max va être émotif?
418-971-1021. Oui ou non? Voulez-vous entendre le débat des gardiens de but? Laramé, Larouche, dans On en jase.
Alex, j'ai confiance en toi.
Ah, Max, je le plante quand vous voulez. Je vais répondre présent.
OK, on coupe cet extrait-là, on envoie ça à Max, s'il vous plaît. Hey, Alex, avant de passer aux Panthers de la Floride qui ont énormément de difficultés au classement présentement, je veux qu'on termine la note sur le Canadien avec cette ovation monstre à Nick Suzuki lorsqu'on a annoncé qu'il allait représenter le Canada aux Jeux olympiques. Encore une fois, les partisans du Canadien ont montré leur grande classe. Puis crime, allons ramener l'or. Go Canada, go!
Ouais, puis même l'organisation du Canadien a prouvé encore une fois sa grande classe. Ça a même été présenté dans le match à RDS. On a fait une petite aparté, on a souligné la participation de Texier, de Slavkovski, de Kapanen, qui vont aussi être aux Jeux olympiques pour leurs pays respectifs. Et oui, en fin de match, Suzuki était la première étoile avec Marc Denis. Il y a eu une super belle ovation. C'est sûr que ici on est des partisans de hockey, donc évidemment, tout le monde va se ranger du côté du Canada. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les joueurs de la Ligue nationale participer aux Olympiques. En fait, ça fait depuis 2014, ça fait plus de 10 ans. Donc, je pense qu'on a tous très hâte de voir, en plus, un joueur du Canadien représenter notre pays, parce qu'il y avait les quatre nations l'an dernier. Oui. On avait Samuel Montembeault, mm-hmm. mais soyons honnêtes, il n'avait pas joué un match. Là, il réchauffait la galerie de presse. Donc, non, je pense que ça va être super le fun. Puis ça va donner un engouement de plus aux partisans du Canadien de suivre le Canada pendant la pause olympique.
En terminant, Alex, les Panthers de la Floride, double champion de la Coupe Stanley, sont à 8 points des séries éliminatoires et des Bruins et du Canadien. Avec la blessure d'Alexander Barkov, je ne les vois pas atteindre les séries cette année. Suis-je dans l'erreur?
Non, moi non plus, je ne les vois pas atteindre les séries. Mais honnêtement, je pense que même eux, ça les dérange même pas tant. Pourquoi? Parce que, veux pas, ça fait trois finales de la Coupe Stanley qui font de suite. Mm-hmm. C'est pratiquement quatre saisons en trois ans qui ont dû jouer. Donc, c'est sûr que les gars sont maganés. C'est pas pour rien que Barkov s'est blessé, que Kachuk était blessé. On a vu, là, c'est Seth Jones même qui manque à l'appel du côté de la Floride. Fait que je pense que d'avoir des séries éliminatoires où ils ne joueront pas, ça va faire du bien à toute leur équipe. Puis la majorité des éléments seront de retour l'an prochain. Donc, si moi j'ai à mettre un petit 2, la Floride va être de retour au sommet l'an prochain. C'est un petit pas de recul, mais selon moi, c'est rien d'inquiétant du côté de la Floride. Puis avec deux Coupes Stanley de suite, ben c'est sûr qu'on ne peut pas se plaindre.
Très d'accord avec toi, Alex Laramèche. Je te souhaite un excellent week-end.
Ben, vous autres aussi, là.
Salut! Le retour de Denis Gravel avec Denis Audrey-Véro suit à l'instant même. Manquez pas le segment Québec-Montréal à 17h. Et il y aura également le top de sport avec Gabriel Marino. Pascal Sévis, je te souhaite un excellent week-end.
Bon week-end.
On se revoit lundi. Bye-bye, guys.
Sans faute. Bye.